Au milieu des bourrasques, des tempêtes, du grand fracas extérieur, entre les crises, les risques et les peurs, ils se sont levés ce matin. Oh, ils sont pas mieux que les autres, mais ils sont debout, des hommes, des femmes. L'un café, un croissant, l'autre un calva, un doliprane, la tête en feu, le corps au repos, ils sont là autour d'une table. L'un feuillette internet, l'autre mort dans la presse. Ils sont prêts à ouvrir ensemble la journée. Il y en a un qui a qu'un œil, l'autre n'a plus de jambes, l'autre perd ses cheveux. Il y en a une qui n'en peut plus. Ils sont là, puis il y a les doigts de Tito. Tito, écoute un morceau, tu peux le rejouer derrière.
Quelques-uns, oui, oui.
Ah, ça m'épate, ça.
Tout à la faille.
Ça m'épate, le journal.
Tout à la faille.
Radio Nova.
Bah oui.
Les suites. Bonjour.
Bonjour Thierry, comment
salut, ça va?
Vous êtes le mec de 6h à 7h.
Exactement.
Ah, oui. Vous écoutiez François à 6h à 7h.
Lorsque Thierry paraît, le cercle de famille.
Très bien.
Oui, bah, il faut avoir le verbe.
Ben, voilà, très grande forme de François Rollin, c'est parti. J'enchaîne, moi, maintenant? C'est
compliqué. Oui.
Les suites de la fusillade dans une mosquée de Québec. Un jeune étudiant québécois a été inculpé de meurtre avec préméditation. Le bilan provisoire de la fusillade s'établit ce matin à 6 morts. Il y a aussi 5 blessés graves. L'auteur de la fusillade, il pourrait être prochainement inculpé pour terrorisme et atteinte à la sécurité nationale. Barack Obama avait prévenu, il avait dit qu'il interviendrait dans la vie politique s'il constatait des discriminations. Ça n'a pas traîné. Suite au décret sur l'immigration de Donald Trump, l'ancien président américain dénonce toute discrimination fondée sur la croyance ou la religion. Angela Merkel aussi sonne la charge contre ce décret. Pour la chancelière allemande, les musulmans sont clairement la cible du nouveau président américain qui a donc provisoirement interdit deux territoires, les ressortissants de 7 pays d'Afrique et du Moyen-Orient. Selon Angela Merkel, la lutte nécessaire contre le terrorisme ne justifie en aucune manière de généraliser un soupçon en fonction d'une croyance ou d'une origine. Reçue à la Maison-Blanche par Donald Trump vendredi, la première ministre britannique Theresa May a remis au nouveau président américain une invitation officielle à se rendre au Royaume-Uni en visite d'État cette année. Alors c'est pas fait, d'autant qu'une pétition vient d'être lancée contre cette future visite. Plus d'un million de Britanniques ont déjà signé le texte. Downing Street a confirmé que la visite aurait lieu et ajouté que Theresa May était impatiente d'accueillir le président dès cette année. Entendu hier pendant 5 longues heures au parquet national financier dans l'enquête sur des soupçons d'emploi fictif, François Fillon et son épouse Pénélope ont affirmé à l'issue de leur audition avoir apporté des éléments utiles à la manifestation de la vérité afin d'établir le travail réalisé par Pénélope Fillon. Bernard Cazeneuve, lui, a reçu Benoît Hamon hier. La gauche ne réussira pas sans assumer le bilan du quinquennat de François Hollande, dont nous avons toutes les raisons d'être fiers des progrès qu'il aura grandement contribué à rendre possible. C'est ce qu'a déclaré le Premier ministre au candidat du PS. Il lui a aussi évidemment parlé d'autres choses. On va parler aussi de la présidentielle à travers l'abbé Pierre, enfin à travers sa fondation. Près de 15 millions de personnes sont touchées par le mal-logement en France. C'est ce que rappelle la Fondation dans son rapport qui est rendu public aujourd'hui. L'organisme de lutte contre l'exclusion entend bien peser dans le débat politique en vue de la présidentielle. À quelques semaines de cette présidentielle, la Fondation Abbé Pierre va interpeller aujourd'hui les candidats sur l'état du mal-logement en France, thème relativement absent des débats depuis le début de la campagne. Il emploie un millier de personnes à un budget annuel de 100 millions d'euros, dont 65 millions de subventions de l'État. De qui s'agit-il? Enfin plutôt de quoi? Du Centre Pompidou, qui fête ses 40 ans aujourd'hui, inauguré le 31 janvier 1977 par le président de l'époque, Valéry Giscard d'Estaing. Cet emblème culturel à l'architecture controversée, en tout cas à l'époque, fut le premier établissement à rassembler sous un seul toit art moderne, art contemporain, une bibliothèque, aussi une salle de concert. C'est aussi le seul musée parisien à avoir connu une hausse de sa fréquentation l'an passé. Une partie des graves incendies de forêt qui ravagent le Chili depuis plus d'une semaine maintenant et qui ont coûté la vie à 11 personnes sont désormais maîtrisées. Plus de 1000 habitations et près de 380 000 hectares de forêt ont été détruits par le feu. On termine avec un mot de football, le retour de la Coupe de France ce soir, 16e de finale. Je ne vais pas vous donner toutes les rencontres, mais il y a notamment Marseille qui reçoit l'équipe de Lyon et avec peut-être Dimitri Payet qui va jouer dans l'effectif marseillais.
Bon ben voilà quoi, c'est Hein, c'est par de la bien
ouais,
et mal.
C'est,
quoi, y a pas de...
c'est peut-être que Dimitri Payet va jouer. C'est pas certain.
C'est pas
donc ça, il faut
oui.
bien que les moi, auditeurs soient conscients.
Moi, non, c'était plus général, mon truc. C'était, si vous voulez, j'étais...
Oui, mais ben, si je parle de ça, c'est parce que tout est un peut-être, finalement.
Oui,
si on prend un peu de hauteur par rapport au journal très terre-à-terre de Thierry Paré, eh ben, tout est un peu de l'ordre de la vibration du peut-être.
Alors, ne faites pas de reproche directement. C'est pas Thierry Paré.
Non, non.
C'est peut-être à la vie elle-même et à la société qui a cessé de vous étonner ou de vous surprendre en bien.
Bien sûr que la société est responsable.
Bien sûr. Mais... à tout de suite, parce que bien sûr que quand même, alors. Non, mais dis-donc quoi.
Oh. Oh, ben.
7h, 9h, plus près de toi.
C'est pas vous, Roland, là, dans la pub française?
Bah non, je vous fais, moi, j'aurais fait joyeux anniversaire, ma voûte plantaire.
Ah bon, on dirait vraiment vous. Et vous avez vu, et il est fort, Hamon, là. Il a réussi à foutre son nom dans une loi
dans une
pour
loi,
les bagnoles.
Ouais.
Donc, il passe, ça lui, on lui fait de la pub. Il n'y a pas une loi,
Valls
ou une loi Fillon sur les bagnoles qui,
pour
équilibrer. Bon, bah voilà.
Et ben voilà, parlez encore parce que
je croyais que c'était un départ. Donnez un coup de pied dans la machine, vous verrez la chanson partira. C'est dans mon livre sur la radio, sur les radios libres.
C'est pas drôle, c'est
non,
un joli morceau.
Non, c'est rien à voir. C'est pas parce que j'ai vu une image de quelqu'un qui a marché sur une peau de banane.
Théo Lorenz and the Heart, ils sont passés dans l'émission.
Qui était là et ils en ont un excellent souvenir. Je reçois très souvent du courrier ou des mails. When do we come back at your show, Greg? Qu'est-ce qui s'est passé ce matin? Qui est très informé? Qui a lu des choses? Qui a vu des choses?
Vous connaissez le Ligre?
Le Ligre, non?
Oui. Je pense que ça devrait parler à François Rollin notamment, qui aime les animaux, je le sais.
Oui, le Ligre, c'est le un Ligre, peu comme un tigre, mais qui aurait...
En Ligue 1.
Eh ben, c'est pas faux. Le Ligre, c'est un mélange entre un tigre, ou une en l'occurrence, que là c'est une, et un lion.
Oui.
Ce Ligre qui vient de naître, il n'y en a que 20 sur Terre, il n'y en a pas beaucoup. Ça s'explique, hein, parce que c'est pas facile de faire se rencontrer une tigresse et un lion.
Ah oui.
Tout simplement parce que les tigres vivent en Asie et les lions en Afrique.
Donc, c'est pas juste une question de billet d'avion, c'est peut-être plus aussi que c'est...
Plus compliqué que ça.
D'accord.
Il y a un cirque itinérant en Russie qui a une tigresse et un lion. Et donc, ils vivaient dans la même cage. Et donc, au moment de l'accouplement, voilà, ce qui s'est produit, c'est produit. Et donc, ils ont donné naissance à un Ligre. Et le Ligre, c'est... donc, il n'y en a pas beaucoup, il y en a une vingtaine. Celui-ci s'appelle Tsar. Son père, donc, c'est César. La mère, je ne sais plus comment elle s'appelle. Ça a une particularité parce que c'est à l'âge adulte, bon là il est nourri au lait de chèvre, c'est un gros chat quoi en gros. À l'âge adulte, dans pas tellement longtemps, il va être beaucoup plus gros qu'un lion ou un tigre. C'est l'animal, c'est le félin en fait le plus gros du monde. Et donc celui-ci va pouvoir faire sans doute plus de 400 kilos. Et il faut savoir que le Ligre Hercule, qui est le plus connu de ces 20 ligres dans le monde, il vit en Floride et lui il fait 418 kilos et il mesure plus de 3 mètres, 3 mètres 33. Pas trop envie de le gratter sous le menton.
Je vous sens ému par cette information. Pourquoi, comment c'est venu ce mot ligre, fils d'un tigre et d'un lion? Pourquoi pas un tion, par exemple?
Oui, ça aurait pu.
On ne sait pas.
Mais
François, ça vous accusez un peu le coup de cette information, oui, ce nouvel animal.
Mais le tion, c'est le reflet virtuel du ligre. C'est-à-dire, c'est l'inexistence du ligre, ça s'appelle le tion.
C'est la négation du bien sûr. Il y a aussi un animal qui s'appelle un chion, qui a la tête d'un lion et le corps d'un lion, mais pas du même lion. Voilà. D'autres informations
J'ai une information importante quand même, c'est de vous dire que hier, tard dans la nuit, à la crémaillère de Montmartre, l'Académie Alphonse Allais a intronisé deux nouveaux académiciens, Bernard Ménez et Chantal Latsou.
D'accord.
Donc maintenant, quand on vous demande la liste des académiciens de l'Académie Alphonse Allais, ben n'hésitez pas.
Il ne faut pas se tromper, d'accord.
C'est de là marque un point.
Je vous remercie, François. De quoi vous allez nous parler, Marie?
Je ne sais pas encore, mais il y a le... Non, je ne sais vraiment pas encore.
Pas gêné, l'autre, alors là...
C'est dans une heure, votre vue de presse, vous tomber
encore, je vais
comme un fruit mûr dans la bouche.
Peut-être des terres déprises et terres reprises à Couseran, je ne sais pas, j'étais en train de lire ça. Il y a le gros lard aussi, Thierry, pour aller vers toi. Grizzly et Polar Bear, c'est l'ours brun et l'ours blanc. Ils ont fini par se rencontrer parce qu'il y a les glaces qui fondent, et ça a fait le gros lard.
C'est un mélange aussi de deux animaux qui ne veulent pas se rencontrer.
Et ils se sont rencontrés, et ils ont choisi ce nom.
Très bien. Tito?
Le chia.
Mais non, on vous demande pas. Un mélange d'un chien et d'un chat. Non, c'est pas ce qu'on vous demandait. Qu'est-ce qui s'est passé, Thomas? Qu'est-ce qui vous a frappé dans l'info ce matin par des naissances d'animaux? Non, mais arrêtez. Foutez-nous la paix avec les animaux qui couchent ensemble. Sexualité animale, c'est un truc. Rien d'autre vous a frappé ce matin? Il y a Trump, il y a Obama qui a parlé hier soir.
Il y a un anniversaire aujourd'hui. C'est l'anniversaire d'Opportunity qui fête ses 13 ans tout seul sur Mars.
Le petit robot?
Le petit robot, tout à fait.
Il est seul pour son anniversaire?
Oui, triste.
Mais est-ce que ça lui ferait plaisir qu'il y ait un autre robot et un accouplement entre deux robots?
Je crois que ce qui lui ferait surtout plaisir, c'est un petit mot d'Edouard Baird depuis l'antenne de Nova. Eh bien sûr, en 4 minutes, ça arrive sur bien Mars. Sûr, vous êtes...
Tu es seul. Tu es là, sur cette planète, avec de l'huile, des boulons, avec un petit moteur, avec très peu de sentiments. Et pourtant, il y a en toi un petit cœur qui bat, une envie d'entendre un message de la planète Terre. Bon anniversaire, opportunité, belle opportunité. À tout de suite. Nya, 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 nya. Oui, le fils d'Hitler des frères Jolivet, François, c'est évidemment une contre-programmation musicale. On prétend pas lancer un.
D'accord.
C'est pas de cette année. Hein, c'est pas.
C'est-à-dire, c'est un petit peu comme le tion tout à l'heure par rapport au ligre. C'est-à-dire, vous voulez dire ce qu'il ne faut pas écouter plutôt. Pour montrer ce qu'il faut écouter, vous montrez ce qu'il
non,
ne faut pas écouter.
Non, c'est très vicieux votre raisonnement. Non, mais oh, c'est tout à coup, il y a des morceaux comme ça qui ont envie d'exister.
Vous ne vous entendez pas bien avec Pierre Jolivet. Vous êtes concurrent dans le milieu du cinéma. il a fait, je crois, 20 entrées de plus que vous l'an passé.
Ça compte 20 entrées.
Voilà.
Alors, il y a plein de gens ce matin, beaucoup de personnes qui sont avec nous ce matin, qu'on n'entend pas souvent. Il faut les entendre ce matin. Eva, c'est la deuxième matinée que vous êtes avec nous. Qu'est-ce que vous faites avec nous?
Absolument. Bah, je parle avec vous, là, présentement.
Oui.
Et sinon, je vous assiste sur le web. Et alors, je parle pour vous.
Ça consiste en quoi, alors?
Ça consiste en repérer les anecdotes de la matinale et les retranscrire au tweetos, comme on dit, et travailler avec la communauté sur le web.
Donc il y a cette idée communautaire, un peu des gens qui se tiendraient la main dès le matin. Donc là, qu'est-ce que vous avez ? Il y a déjà des choses que vous avez envoyées sur le web ?
Absolument, j'ai parlé à Opportunity. Je lui ai transmis votre mot en signal numérique.
Vite, oui. Voilà. On va rebasculer dans l'émotion. Tout à l'heure, j'ai pleuré. Hein.
Vous étiez Thomas Baumgartner, on ne fait jamais le sommaire. Il faudrait le faire parfois, vous pensez ou pas?
Non,
je pensais qu'il faudrait organiser l'émission un peu.
Non, c'est bien comme
que ça.
On peut la commencer plus tard, si vous voulez.
On peut commencer plus tard, vers 11h, parce que beaucoup de gens me disent on n'est pas levé.
C'est vrai.
Et se lève exprès pour l'émission et se recouche jusqu'à 11h. Peut-être qu'il faudrait. Armel, vous avez le temps de lire la presse, de regarder
bien
net
sûr,
le
bien
matin.
Sûr. J'ai lu toute la presse. Moi, je me lève très très tôt, quoi, juste pour le plaisir. Comme
Qu'est-ce
ça.
Qui vous a donné envie de continuer cette journée dans la presse ce matin?
Eh bien, cette information dans l'actualité, c'est très impressionnant. Il y a un policier qui est mis en examen. Et ça, c'est très intéressant parce qu'en général, ils sont plutôt du côté des. Enfin, pas du côté des voleurs. Et là, c'est un policier mis en examen car il a utilisé la carte bancaire d'un gardé à vue pour son propre compte. C'est-à-dire qu'il a demandé le code. Il est allé retirer de l'argent, plusieurs centaines d'euros. Il a fait des achats sur Internet. Et voilà, c'est une belle histoire, je trouve. Il y a peut-être une morale à en tirer, je ne sais pas.
François, ça vous.
Moi, je dirais que c'est pas très bien ce qu'il a fait.
Donc,
si par exemple, on pouvait imaginer quelque chose de l'ordre du tirage d'oreilles ou même le tirage des deux oreilles, il l'aura bien cherché.
Ça n'engage que vous, évidemment, la violence de ses propos ce matin. Mais enfin, en tout cas...
Alors, si on parle de choses qui n'engagent que moi, je veux aussi quand même me mettre sur le terrain de l'actualité brûlante et puis vous donner mes pronostics pour les primaires de la droite et primaires de la gauche.
Oui, alors à votre
alors pour
avis,
moi,
qui va
dans les primaires de la droite, c'est Juppé dans un fauteuil.
Oui.
Primaire à gauche, c'est Vincent Payon.
Payon.
Ce n'est qu'un pronostic.
Bien sûr,
attention,
voyez,
hein, mais je...
Alors, puisque vous avez l'air inspiré, qu'est-ce que vous voyez au second tour de la présidentielle?
Alors, au second, Alexandre Jardin, d'un côté, et la salle de l'autre.
D'accord. Ils seront reçus Jean très vite par Hillary Clinton à la Maison-Blanche.
Par Donald. Pas reçu par Donald.
Parce que vous voyez Trump aux États-Unis. Ah non, il n'y vous êtes en pleine
science-fiction. Je prends le pari, Edouard. Amusons-nous.
Vous déconnez à plein tube. À tout de suite.
7h-9h, plus près de toi.
De 7h à 9h, j'écoute plus près de toi.
Plus près de toi.
Oh, il fait une chaleur dans cette émission.
Voilà un morceau qui est très écouté en ce moment dans les lycées, dans les transports en commun. Je sais que c'est ce qui réveille la France en ce moment. Essayez d'être...
Ça ne plaît pas toujours aux parents, mais tant pis.
Oui, c'est un acte de révolte d'écouter ça en ce moment.
Bonne soirée.
Quelle langue on apprend ce matin, Jacques, souvent?
Bah là, je suis sous l'échangeur de Bagnolet. Vous savez, il y a une grande gare, il y a plein de stations de bus, de métro, c'est un grand échangeur. Et j'ai rencontré ce monsieur qui est moldave. Je connais pas votre prénom.
Liliane.
Liliane, et qui est dans une chaise, il m'a dit une chaise roulante, parce que c'est motorisé avec des grosses roues. Et il attend quelqu'un qui va venir à 8h en mangeant une pomme.
Ça, oui. Qui mange une pomme? C'est Liliane ou c'est le signe distinctif pour se retrouver?
C'est Liliane qui mange une pomme.
Oui.
D'accord, ça c'est précis.
J'adore les pommes.
Et il arrive à quelle heure, votre ami?
À 8h, à peu près. Oui, après 8h, oui.
Jack, c'est urgent. Comment est-ce qu'il l'appelle sa pomme en moldave?
Pardon?
Comment vous appelez la pomme en moldave? Comment on dit une pomme en moldave?
Mar. Mar.
Oui.
Mar.
Mar.
Il n'y a pas d'urgence non plus, François, n'exagérez.
Ah bah moi, je vais mieux.
Voilà. Un mar.
Donc vous apprenez le moldave?
Oui. Voilà, j'ai mis le casque, oui.
Qu'est-ce que vous savez dire déjà en moldave depuis ce matin?
Non.
Moi, j'ai appris bonjour, Meltadiza.
Bonne diminata.
Je suis nul en Moldave.
Moi, est-ce qu'on peut en savoir un peu plus sur la Moldavie? Je ne situe pas bien la Moldavie. C'est une ancienne république soviétique. C'est où la Moldavie?
C'est où la Moldavie, demande.
C'est où? Entre Roumanie et Ukraine.
Entre la Roumanie et l'Ukraine?
C'est un petit pays.
Kizino, comment on dit la capitale? Kizino. Ah,
dites-moi vous.
La capitale?
Chisinau.
Ah, Chisinau. Oui, très bon, François. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Quelle est l'ambiance là-bas à Chisinau?
Je crois qu'on l'entend assez mal, en fait. Parce que je crois que vous avez un téléphone dans l'autre oreille, c'est ça? En fait, il a un téléphone dans l'autre oreille.
À qui parle-t-il, monsieur Liliane?
La communication va pas être simple. Mais oui, il dit oui, la communication va pas être simple.
Jack, moi je ne comprends pas, si
moi,
vous voulez. Jack, vous m'organisez un duplex avec la Moldavie. Ensuite, vous prétendez que mon correspondant est en ligne avec sans doute une autre radio qui veut l'exclusivité. Je ne trouve pas ça professionnel.
Ouais, les traducteurs ne sont pas arrivés non plus.
Donc au niveau de l'information, pour le moment, je sais juste que la Moldavie était enclavée entre la Roumanie et l'Ukraine, que la capitale est Chisinau. Je n'en sais pas plus sur la situation géopolitique. Je ne sais rien sur l'économie locale. Je ne sais pas pourquoi Liliane est arrivée ici. Qui l'attend? Pourquoi il mange cette pomme? Qui lui a fourni cette pomme? Il y a un moment, moi, je veux de l'information. Il est 7h28, je veux du brûlant.
Je vous en donne, tout à l'heure.
Mais quand? Qui? Quoi?
Je vous rappelle quand les traducteurs sont là. Mais, ah oui, il a enlevé son téléphone.
Non, c'est
aidez-moi, trop. Aidez-moi. Ah non, remettre.
Non.
Excusez-moi, c'est le... Je suis en train de...
En savoir plus, être au cœur de l'info, mieux connaître l'autre, aller dans l'altérité, aller dans la rencontre.
Voilà.
Derrière la pomme, le langage. Derrière des contrées inconnues, des êtres humains comme nous. Nous y arriverons, malgré l'obstacle que met Jack souvent, qui veut garder pour lui ses meilleures rencontres, ses meilleurs moments. Nous arriverons à vous les faire partager. C'est le défi de toute cette rédaction que j'ai l'honneur d'entraîner ce matin avec François Rollin et les forces vives de Radio Nova. Mais tout de suite, à la demande générale, le rappel des titres de Thierry Paré.
Il est où
Titi Paré?
Thierry.
Il n'est pas là. Alors... Je vous jure que c'est pas professionnel. On va prendre une radio artisanale.
Qui veut faire le rappel des titres, Thierry? François Rollin, peut-être?
Oui, alors le rappel des titres, il y a donc cette histoire de Ligre, surtout, parce que c'est le plus important, parce qu'après, il y avait des trucs de politique, ça nous a pas trop touchés, on s'en fichait un petit peu.
On veut entendre des mots en train.
Et puis, on sentait même que Thierry Paré lui-même n'était pas convaincu. Alors là, il va nous revendre 2-3 trucs. J'attends surtout le moment du sport, Thierry.
Merci d'avoir tenu l'antenne.
Le monde tourne tellement vite, tellement d'informations se bousculent au portillon, que du coup, voilà, c'est compliqué. Le cinéaste espagnol Pedro Almodovar, qui avait remporté le prix de la mise en scène en 99 pour Tout sur ma mère, on parle de Cannes bien sûr, présidera le jury du 70e festival de Cannes.
Vous avez fait peur, parce que depuis vous annoncez des morts. Quand vous dites un nom d'artiste, c'est qu'il est mort. C'est ça, c'est ça dans votre journal. Les gens vivants, vous vous en foutez. Ça.
Bah tiens, tu vois la preuve, regarde. Donc ça sera du 17 au 28 mai, c'est ce qu'ont annoncé donc les organisateurs.
Ah bah ça va être très gai, ça va être joyeux ça.
Bon bah, puisque c'est trop gai, les suites de la fusillade dans une mosquée
de Québec. On peut se réjouir un peu de temps en temps. important.
C'est vrai, t'as raison.
Pardon, excusez-moi.
Un jeune étudiant québécois a donc été inculpé de meurtre avec préméditation. Le bilan provisoire de cette fusillade, il s'établit ce matin à 6 morts, mais il y a aussi 5 blessés graves. Voilà, l'auteur de la fusillade, il pourrait être prochainement inculpé pour terrorisme et atteinte à la sûreté nationale. Donald Trump limoge la ministre de la Justice intérimaire des États-Unis. Voilà, elle s'appelle Sally Yates. Elle a annoncé qu'elle refusait de défendre le décret sur l'immigration signé vendredi par le président américain. C'est un décret qui continue de faire énormément de bruit à travers la planète et aux États-Unis en tout premier lieu, évidemment.
Pourquoi par intérim ? Il l'avait déjà nommé ? Il l'avait...
Oui, je ne sais pas.
Ah, attention, parce que moi, je n'ai pas eu le temps de la connaître. Je n'ai pas eu le temps d'en savoir.
Non, lui, il ne l'avait pas nommé.
Elle était là attendant. Voilà,
en attendant qu'il en nomme une. Donc, de toute façon, elle était sur un siège éjectable.
Oui, mais l'autre va être plus sympa. Je la sens bien là-dessus.
Elle était chez Mampouer.
Oui, merci, Dito.
Bon, je vais y aller alors.
Pardon, on sort du journal.
Barack Obama lui avait prévenu qu'il interviendrait dans la vie politique s'il constatait des discriminations. Alors, ça n'a pas traîné. Suite au décret sur l'immigration de Donald Trump, l'ancien président américain dénonce toute discrimination fondée sur la croyance ou la religion. Angela Merkel aussi sonne la charge contre ce décret. Pour la chancelière allemande, les musulmans sont clairement la cible du nouveau président américain qui a provisoirement interdit donc de territoire, rappelons-le, les ressortissants de 7 pays d'Afrique et du Moyen-Orient. Reçue à la Maison-Blanche par Donald Trump, c'était vendredi, la première ministre britannique Theresa May a remis au nouveau président américain une invitation officielle à se rendre au Royaume-Uni en visite d'État dès cette année. C'est pas fait. D'autant qu'une pétition vient d'être lancée contre cette future visite. Plus d'un million de Britanniques ont déjà signé le texte. Entendu hier pendant 5 longues heures au parquet national financier.
Il y a un truc quand même sur les... Maintenant qu'on peut signer en ligne, il va y en avoir des pétitions à 500 000, 1 million, 2 millions.
C'est déjà un petit peu le cas.
Surtout, elles vont se dévaluer, donc les pétitions en question. Donc il va falloir trouver un autre moyen encore.
C'est comme les likes sur Facebook depuis que ça démarre tout de suite, les trucs Facebook. Enfin bon, on en parlera plus tard.
Donc reçu à la Maison-Blanche par Donald Trump vendredi, la première ministre britannique Theresa May a remis au nouveau président américain une invitation officielle à se rendre au Royaume-Uni en visite d'État dès cette année. Alors, c'est pas fait, d'autant qu'une pétition, mais je viens de vous le dire ça. Et vous, vous dites rien.
On aime bien.
1 million de personnes donc ont déjà signé ce texte. Entendu hier pendant 5 longues heures au parquet national financier dans l'enquête sur des soupçons d'emploi fictif, François Fillon et son épouse Pénélope ont affirmé à l'issue de leurs auditions avoir apporté des éléments utiles à la manifestation de la vérité afin d'établir le travail réalisé par Pénélope Fillon. Bernard Cazeneuve pendant ce temps a reçu lui Benoît Hamon. Hier, la gauche ne réussira pas sans assumer le bilan du quinquennat de François Hollande. C'est ce qu'a déclaré le Premier ministre. Près de 15 millions de personnes sont touchées par le mal logement en France, selon la Fondation Abbé Pierre, qui publie son rapport annuel ce mardi. À quelques semaines de la présidentielle, la Fondation interpelle les candidats sur l'état du mal logement en France, un thème relativement absent des débats sur la présidentielle, bien sûr, depuis le début de la campagne. Une partie des graves incendies de forêt qui ravagent le Chili depuis plus d'une semaine maintenant et qui ont coûté la vie à 11 personnes sont désormais maîtrisées. Plus de 1000 habitations et près de 380 000 hectares de forêt sont partis en fumée. Il emploie 1 million de personnes, il a un budget annuel de 100 millions d'euros. Le Centre Pompidou fête ses 40 ans, inauguré le 31 janvier 77. Emblème culturel à l'architecture controversée, en tout cas à l'époque. Il fut le premier établissement à rassembler sous un seul toit art moderne, art contemporain, mais aussi une bibliothèque, une salle de concert. C'est aussi le seul musée parisien à avoir connu une hausse de sa fréquentation l'an passé. Et puis le coup d'envoi ce soir des 16e de finale de la Coupe de France de football. Parmi les rencontres, Bordeaux va recevoir Dijon à 18h. Et puis à 21h, Marseille va recevoir Lyon. Et puis il va pleuvoir aujourd'hui. Beaucoup, un peu partout.
On va aller plus loin dans cette information grâce à la météo de Tito.
Alors aujourd'hui, méfiez-vous du temps. Il pleut à Paris, à Orléans, à Strasbourg, à Metz. Et il fait beau, par contre, à La Rochelle, à Bordeaux et à Biarritz. Après, à Clermont-Ferrand et à Lyon, il pleut aussi. Et dans le sud, Nîmes, Marseille, Perpignan, la Corse, c'est nuageux. Les températures sont alors à Amiens, entre 6 et 8. À Lille, entre 4 et 6. À Brest, entre 11 et 13. À Tours, entre 10 et 14. À Biarritz, entre 10 et 19. Nîmes, entre 11 et 14. Ajaccio, entre 9 et 15. Perpignan, entre 7 et 14. Et Paris... entre 11 et 12.
Très difficile à traduire ce lai-lo-lai. Merci Tito.
7h, 9h, plus près.
Alors Thomas Baumgartner, nous avons organisé une rencontre ce matin entre notre ami Rachel Kahn, l'auteur des Grandes et Petites Choses aux éditions Anne Carrière, qui concourt pour le prix Méditerranée des lycéens 2017. C'est pas mal d'avoir un prix par des lycéens, Rachel.
Ah, moi, je suis ravie parce que c'était l'objectif, en fait, de dédier ce bouquin aux lycéens.
Alors, ce livre parle d'une jeune fille, son rapport à comment on grandit par le sport, comment on évolue, comment on se construit. Et on vous a mis face à Georges Vigarello. Présentez-nous mieux Georges Vigarello, qui nous fait l'honneur d'être là, cher.
Oui, Georges Vigarello, vous êtes ancien professeur d'éducation physique.
Oui.
Vous êtes historien, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales. Et vous avez plusieurs thématiques de recherche et thématiques de livres, et en particulier le sport. Le corps, la santé, voilà ce genre de thématique.
Oui.
Et évidemment, comme dans votre livre, Rachel Kahn, Les grandes et les petites choses, il s'agit de l'histoire d'une jeune femme qui trouve peut-être une forme de liberté, d'émancipation à travers le sport et le sport de haut niveau. Le sport est omniprésent dans ce livre. Et donc on s'est dit voilà, qu'on allait voir comment vous pouviez échanger, puisque Georges Vigarello, vous avez lu ce livre-là, on vous l'a envoyé, et vous l'avez lu, ce roman qui est, Rachel, on peut le dire, en grande partie, pas complètement, mais autobiographique.
Ouais, un livre est toujours autobiographique.
Ah.
J'ai utilisé des éléments narratifs, effectivement, qui constituent ma vie, et après j'ai tressé avec... un roman, voilà.
Mais vous avez été sportive de haut niveau.
Oui.
Vous avez été, j'ai vu, championne de France du 60 mètres en salle en 91, vice-championne de France du 80 mètres. Vous avez été membre de l'équipe de France, vous avez gagné le championnat de France du 4x100 mètres.
Comme tout le monde un peu ici, on va pas tous se vanter de ce qu'on sait faire ou pas. Il y a François Renard qui fait des pompes pendant ce temps-là. Georges Vigarello, vous faisiez à la fois, donc vous étiez, vous mêliez les deux, donc vous étiez professeur d'éducation physique pendant que vous prépariez votre agrégation.
Oui, absolument. Absolument.
Vous êtes
ça remonte
de...
à une archéologie de ma vie, mais effectivement, je faisais, dans une certaine mesure, les deux. Ensuite, bon, évidemment, j'ai abandonné la pratique sportive. Mais je suis très touché par ce livre, dans la mesure où je trouve que la pratique traverse, enfin, le texte, imprègne le texte. Et moi, ce qui me touche le plus, c'est au-delà de ce qu'on dit communément concernant le sport, c'est-à-dire la recherche de la performance, le fait de dépasser l'autre, etc., le fait de chercher un temps, tout ça. Moi, ce qui me touche le plus, c'est cette insistance pour essayer de traduire ce qui est éprouvé. Et là, c'est très, très intéressant, c'est très sensible. Je cite un petit passage qui, moi, me paraît parfaitement révélateur de la façon dont Rachel se situe par rapport à sa pratique. Ce passage, c'est le suivant. « Je cours, puisqu'il le faut, pour que mon cœur batte de plus en plus vite, de plus en plus fort. Je cours pour sentir ce pouls sur mes tempes, mon souffle au cœur qui sort de ma bouche. » Vous voyez, c'est un sport qui identifie la personne. C'est-à-dire qu'à travers la façon dont elle pratique, elle se ressent elle-même. Et ça, je trouve que c'est une manière assez nouvelle de parler des pratiques. Parce que jusqu'ici, quand on parle des pratiques, on situe la performance.
La performance ou l'entretien, l'hygiène.
Oui, bien sûr. Oui. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est perçu de façon assez mécanique. Alors que dans ce texte, c'est perçu de façon extrêmement sensible.
Oui, il y a même cette question-là à un moment donné que Nina Gary, donc l'héroïne des grandes et des petites choses, pose, c'est est-ce que j'ai encore envie de courir ? On ne se dit pas qu'un athlète de haut niveau peut se poser ce type de questions juste avant la course ?
Non, ça, je ne sais pas. Moi, je pense qu'au contraire, il peut y avoir des effondrements. Mm-hmm. Et c'est très bien fait dans ce texte aussi, parce que vous avez un burn-out, vous voyez, dans la deuxième partie du livre. Hein. Donc, il y a des effondrements, il y a le sentiment qu'on n'y arrivera pas, il y a le sentiment que c'est trop compliqué, que les adversaires sont trop durs. Et puis, en même temps, ce qui est très intéressant aussi, c'est l'idée qu'il faut avoir des adversaires, vous voyez, et que cette fameuse, je ne sais plus comment elle s'appelle, Rachel, j'ai oublié son nom,
Nadia,
il faut que Nadia soit méchante pour que moi-même je puisse faire. Donc ça donne beaucoup de dimensions dans ce texte.
La question du corps aussi, c'est une héroïne qui a conscience de son propre corps, de ses spécificités, de ses avantages comparatifs, elle le dit.
Ben oui, alors là, il y a plusieurs choses. Il y a à la fois le sentiment d'appartenir à une ascendance qui est complexe, qui est croisée. Et il y a ce que je disais tout à l'heure, le sentiment que elle n'entre pas complètement dans cette sorte de distinction de la fac. Parce qu'il y a des mondes différents. Il y a le monde de la fac qui est un monde de distinction. En plus, le droit, etc., avec des gens qui sont assez compliqués au niveau de l'ostentation. Vous voyez, donc ça, elle n'y entre pas. Et en même temps, elle entre totalement dans la pratique physique où elle se sent très bien. Et je trouve que là encore, c'est parfaitement bien traduit.
Alors, cette lecture-là, Rachel Kahn.
Je suis très touchée. Enfin, j'aimerais vous écouter pendant longtemps. c'est vrai que moi, ce que j'ai essayé de faire, donc, c'était aussi de relier le sport et la littérature pour parler aux plus petits. Et puis, c'est l'histoire d'une intériorité de cette jeune femme
voilà.
En construction.
Oui.
À l'intérieur d'elle-même.
Oui, le mot intériorité est très, très important, effectivement. Vous avez raison. Oui, justement, le sport est vécu sur le mode de l'extériorité.
Ouais.
Alors que là, ce qui est traduit, c'est quelque chose qui vient du dedans. Et finalement, ce qui vient du dedans traverse à la fois l'origine, l'ascendance, la relation aux parents. Et vraiment, du coup, ça entraîne une richesse très forte de ce texte.
C'est-à-dire, en gros, que c'est pas juste pour être plus beau ou pour être le meilleur. C'est que vous parliez de sentir son cœur battre.
C'est pour se sentir autrement. Moi, je crois que c'est ça qui est au cœur, se sentir autrement.
Est-ce que c'est comme Jacques Brel qui racontait qu'il prenait son vélo et continuait jusqu'à ce qu'il tombe d'épuisement pour voir jusqu'où on peut aller?
Oui, par certains côtés, ça traverse aussi d'autres pratiques. Vous savez, c'est pas seulement la pratique sportive, c'est également le fait, par exemple, de jouer au niveau du théâtre, c'est le fait d'être virtuose. C'est une manière de traduire le résultat au plus haut niveau à partir de la manière dont il est vécu de l'intérieur. Et ce vécu de l'intérieur, c'est précisément le chemin vers un accroissement de l'identité. C'est comme ça aussi que je lis le texte.
Aller plus loin, aller plus haut, aller plus fort. Chacun doit dire ce qu'il fait aujourd'hui comme pratique quotidienne pour se dépasser. Georges Vigarello, quelle est votre pratique quotidienne pour vous épater vous-même?
Écoutez, moi, ça a été dit tout à l'heure. J'ai fait énormément de pratiques quand j'étais jeune et adolescent, avec là aussi la recherche de la performance. Aujourd'hui, je suis un peu plus âgé et donc je me livre très régulièrement et de manière parfaitement délibérée à la marche.
La marche, donc ça reste le corps. Thomas Baumgartner, qu'est-ce que vous faites chaque jour pour vous dépasser physiquement ou autre?
Je reporte le fait de réparer ma machine à laver.
Oula, c'est très, ça va très loin.
C'est de la pratique
ça
aussi.
Ça va très loin. Rachel, Cannes,
L'amour.
Très bien. François, Rolin.
Oh, simplement, je souhaitais me mesurer à Rachel Kahn sur 80 mètres en salle, mais les couloirs de Nova, je viens de les mesurer, ne le permettent pas.
Si, vous allez faire un aller-retour.
Non. Si on fait demi-tour, c'est plus la même épreuve. Pardon, Edouard. Essayez d'être un petit peu au courant des disciplines que vous...
Georges Vigarello, à part le corps, est-ce que vous pensez qu'il faut, chaque jour se provoquer, il faut s'entraîner à s'étonner soi-même sur d'autres disciplines?
C'est difficile de répondre, mais effectivement, je pense que il faut se sentir exister. C'est-à-dire, se sentir exister, c'est effectivement s'affronter. Vous voyez, alors s'affronter, ça ne veut pas dire l'obsession de l'affrontement.
Se faire peur?
Non, ça veut dire une exigence intérieure qui consiste à essayer de faire. Ça, je pense que c'est fondamental.
On écoute un petit hommage au muscle que nous a fait Charlène. Bonne nuit.
Les muscles. Ils sont à l'homme ce que les pistons sont à l'automobile. Des muscles bien huilés sont une formidable source de force et de puissance.
Exercice tous!
Brigitte plus vite, Corinne Simon, très bien.
1, 2, 1, 2, 1, les muscles. Laissez-moi vous montrer ma technique d'entraînement spéciale. Les muscles.
On n'a pas peur de se tordre les reins. Voilà.
Merci pour ces muscles. Tous ensemble. Merci pour ces muscles. Voilà.
Benoît Poulvorde, les fameux muscles de Benoît.
Alors, Rachel Kahn, Les grandes et les petites choses, c'est paru chez Anne Carrière. On parlait d'adversité à l'instant. Est-ce que écrire, c'est une forme de... Est-ce qu'on se confronte à soi de la même manière qu'on se confronte à soi dans une course?
Oui, pour moi, c'était exactement le même processus. Je ne sais pas si vous l'avez ressenti comme ça, Georges. Vraiment, Et puis en plus, il y a cette histoire de centimètres, de mètres, de kilomètres qu'on parcourt à travers les mots jusqu'au bout de la feuille qu'on tourne. Et c'était exactement cette intériorité et me sentir vivante à travers les mots, comme ce que j'ai pu vivre quand je courais.
Vous êtes en train d'écrire un autre roman?
Oui.
Oui, c'est en cours. Une autre course alors.
Oui.
En attendant, donc, il y a l'histoire de Nina Gary dans Les grandes et les petites choses qui s'émancipe, qui trouve sa vie d'une certaine manière à travers le sport de haut niveau et qui trouve autre chose, évidemment. Il faut lire le livre.
Sa place, et puis après, c'était aussi un hommage à la France.
Georges Vigarello, je voudrais quelques consignes d'hygiène de vie maintenant, s'il vous plaît.
Non, je voudrais relever le son que nous avons écouté tout à l'heure.
Oui.
Parce que je trouve qu'il traduit parfaitement une certaine tradition. Je pense entre autres quand je l'écoute à Sandove, dont l'obsession était d'accroître systématiquement les centimètres de sa musculature. Vous voyez, Sandove écrit au tout début du 20e, 1902-1903. Or, justement, ce qui est montré dans ce livre, c'est que l'objet est différent. C'est pas le fait d'accroître des centimètres de muscles, c'est le fait de se sentir progressivement autrement. Ça, c'est absolument fondamental.
Donc là, on revient à l'idée intérieure ou extérieure.
Mais bien entendu, oui. Bien sûr.
Tout n'est pas pour l'œil.
Exactement. Et alors, pour continuer ce qui vient d'être dit, moi j'ai le sentiment aussi que lorsqu'on passe de la pratique sportive à d'autres types de pratiques, il n'est pas forcément question d'une rupture, il est question d'une continuité de l'exigence.
Absolument.
Moi, je ressens la même chose quand personnellement j'essaie de faire un livre, alors qu'auparavant j'essayais de faire une performance. Vous voyez, c'est pour moi le même mode d'exigence qui se prolonge. Et je trouve que du coup, là encore, le témoignage proposé dans ce livre est passionnant.
Et puis aussi, alors c'est vraiment pour rajouter quelque chose, c'était l'histoire de cette jeune femme en construction puisque nous avons une construction en tant que femme, et je profite de cette mixité au sein du plateau de Nova, qui est vraiment à part, évidemment, Eugénie, qui est très...
C'est non, pas notre faute, si. Je ne sais pas quel est le sexe des gens qui viennent le matin. Je ne suis tellement pas sexiste que je ne me rends pas compte du tout s'il y a des hommes ou des femmes. Voilà.
Non, mais c'est vrai que l'évolution d'une femme à l'intérieur, c'est quand même quelque chose que j'avais envie de souligner et que le sport, moi, m'a aidée dans cette construction-là, oui, identité oui. de femme.
Absolument. Voilà. Mais s'ajoutent aussi des choses quand même qui sont très fortes dans le texte, à la fois, par exemple, la famille, l'agression aussi, l'agression avec tout ce qui l'entoure, la nécessité du silence, et en même temps la manière dont ce silence crée un certain nombre de phénomènes intérieurs, etc. Et y a quand même, ça croise beaucoup d'événements qui, chaque fois, portent, je dirais, un ajout sur l'intériorisation.
Sentir battre son cœur. Merci Rachel Kahn, merci Georges Vigarello d'avoir lu ce livre.
Merci à vous.
Pour nous. Qui j'ai pas remercié? Thomas, je vous ai bien remercié.
Il y a François.
François, vous avez été remercié suffisamment ou pas?
À mon goût, non, mais je pense que.
On s'en retrouvera des raisons de le faire. Ça s'appelle Les grandes et les petites choses. On vous souhaite d'avoir ce prix Méditerranée des lycéens 2017, chère Rachel.
Merci Edouard.
Nous vous aimons. Salut.
7h-9h, plus près de toi.
Alors Georges Vigarello, je vous présente Zoé.
Oui, bonjour.
Zoé, voici Georges Vigarello.
Bonjour.
Voilà, Zoé, excuse-moi, je t'approche un petit peu du micro parce que tu me disais que il y a d'autres enfants de ton école qui sont venus déjà dire un poème ici.
Oui, deux.
Et ils t'ont dit que ça s'était passé comment?
Bien.
Ils t'ont recommandé l'émission ou pas? Ils t'ont dit
non.
Tu peux y aller? Non, ils t'ont pas dit spécialement tu peux y aller.
Non.
Mais alors donc, ils t'ont dit n'y va pas, c'est un piège?
Non plus. Ils m'ont rien dit.
Ils t'ont rien dit spécial.
Ouais.
Bon, donc il n'y a pas dans la cour. Moi, je voulais faire naître une rumeur sur l'émission que les enfants nous écoutent le matin. Tu peux essayer de me faire gagner des auditeurs le matin, faire de la pub un peu?
Ouais, d'accord.
Bon, d'accord. Alors raconte un petit peu, toi, dans quelle classe tu es, ce qui se passe, ta vie. Dis-moi deux, trois trucs sur toi.
Je vais bien. Je suis dans l'école Montessori. Le petit dôme.
Le petit dôme, ça s'appelle
6-8 rue des Bleuets.
D'accord, oui, on peut donner l'adresse, mais enfin, en même temps, on n'est pas obligé, parce que c'est trop tard pour s'inscrire. En cours d'année, les gens ne vont pas s'inscrire maintenant.
Non.
Qu'est-ce que tu as sur toi, là? C'est une sorte de truc
de
berger?
C'est une peau de mouton.
C'est une peau de mouton?
Oui.
Bon, mais alors, ça va repousser sur le mouton, quand même, tu ne vas pas?
Non, enfin, je ne sais pas.
Bon, tu essaies de te renseigner, quand même, voir si le mouton est d'accord. Tu sais, maintenant, vous faire attention à toutes ces histoires-là. Alors,
je ne sais pas c'est quel mouton.
Ben, c'est un mouton, alors, et tu vas le reconnaître, c'est celui à qui manque de la peau. Comme ça, tu vas regarder un troupeau de moutons, tu diras, tiens, celui-là, on lui a découpé exactement de quoi faire mon manteau, peut-être, non?
Ouais.
On voit les choses comme ça. Georges, vous avez une veste en peau de quoi?
Écoutez, franchement, je ne sais pas. Je pense que c'est du velours. Mais vous savez, moi, je ne suis pas très au courant. Voilà.
Alors, Georges Vigarello, écoutez avec nous ce poème.
Ah oui, on va l'écouter avec attention.
Alors, on t'écoute, ça s'appelle comment?
J'écris.
Alors, tu écris, tu dis les choses.
J'écris des mots bizarres. J'écris des longues histoires, j'écris juste pour rire, des choses qui ne veulent rien dire. Écrire, c'est jouer. J'écris le soleil, j'écris les étoiles, j'invente des merveilles et des bateaux à voile. Écrire, c'est rêver. J'écris pour toi, j'écris pour moi, j'écris pour ceux qui liront et pour ceux qui ne liront pas. Écrire, c'est aimer. J'écris pour ceux d'ici et pour ceux qui sont loin, pour les gens d'aujourd'hui et pour ceux de demain. Écrire, c'est vivre. Geneviève Rousseau.
Ah oui, donc là ben c'est très bon, on t'applaudit, bravo. Et alors, Georges, vous connaissiez ce poème?
Ah, je ne le connaissais pas. Mais ce que je trouve magnifique, c'est le fait que l'idée d'écrire, c'est créer une sorte de nouvel univers. C'est ouvrir le monde. C'était très bien dit, c'est le rêve, c'est superbe.
Tu écris, toi?
C'est-à-dire?
Est-ce que tu écris des petites choses? Tu écris un petit carnet, des cartes postales?
Oui, quelquefois.
Par exemple, quoi?
Bah ouais, les cartes postales. Peut-être qu'on va écrire avec maman d'écrire un robinier.
Un robinet?
Un robinier.
Qu'est-ce que c'est un robinier?
C'est un arbre.
Ah, vous allez écrire un arbre? Bon.
Oui.
Ça me va, c'est pas d'une clarté totale pour moi, mais j'accepte de pas tout comprendre. Est-ce que tu dessines?
Oui.
Quoi?
Un peu. Souvent des chevaux parce que c'est ma passion.
Tu les fais parler quand tu fais un dessin? Tu fais comme une BD, tu fais parler le cheval ou pas?
Ouais, quelquefois.
Ouais, il dit quoi, le cheval?
Il est ni.
Il est ni, voilà. Merci, Georges Vigarello, vous êtes d'accord avec ce qui vient d'être dit?
Ah, totalement, totalement. En plus, la passion des animaux, je trouve, c'est très beau.
Je vous remercie. François, ça vous va aussi?
Oui, moi je suis entièrement satisfait, je dirais, comblé, si vous me passez l'expression.
Je vous remercie, Zoé, on te laisse aller à l'école, nous on a la chance, on n'y va plus. À bientôt.
Au revoir.
Salut, tu nous fais un peu de pub.
Radio Nova.
Ah, c'est le journal de Thierry Paret, mais comme il le fait dans le canapé, maintenant je ne comprends plus. Thierry Paret, le journal de 8 heures, 4 secondes d'avance, qui montre l'élégance de cette émission.
On l'appelle la tournée générale. C'est le ou la ministre de la Justice aux États-Unis. En l'occurrence, c'est la. Nommée par Obama, Sally Yates occupait le poste par intérim en attendant que Donald Trump lui nomme un successeur. Occupée parce que le nouveau président américain vient de la limoger en raison de son opposition au décret sur l'immigration. C'est un décret qui a mis le feu aux poudres depuis sa signature vendredi. Et la tension, notamment aux États-Unis, mais plus généralement sur l'ensemble de la planète, ne retombe pas du tout. Même Barack Obama est sorti de son silence. L'ancien président américain dénonce toute discrimination fondée sur la croyance ou la religion. Il s'est félicité de la mobilisation dans son pays. Rappelons que ce décret sur la protection de la nation contre l'entrée des terroristes étrangers aux États-Unis, c'est son nom exact, interdit de territoire les ressortissants de 7 pays, l'Iran, l'Irak, la Libye, la Somalie, le Soudan, la Syrie et également le Yémen. Reçue à la Maison-Blanche par Donald Trump, c'était vendredi, la première ministre britannique, Theresa May, a remis au nouveau président américain une invitation officielle à se rendre au Royaume-Uni en visite d'État dès cette année. C'est pas fait, d'autant qu'une pétition vient d'être lancée contre cette future visite. Plus d'un million de Britanniques ont déjà signé le texte. Les suites de la fusillade dans une mosquée de Québec, un jeune étudiant québécois a été inculpé de meurtre avec préméditation. Le bilan provisoire de la fusillade, il s'établit ce matin à 6 morts, mais il y a aussi 5 blessés graves. L'auteur de la fusillade, il pourrait être prochainement inculpé pour terrorisme et atteinte à la sûreté nationale. Entendu hier pendant 5 longues heures au parquet national financier dans l'enquête sur les soupçons d'emploi fictif, François Fillon et son épouse Pénélope ont affirmé à l'issue de leur audition avoir apporté des éléments utiles à la manifestation de la vérité afin d'établir le travail réalisé par Pénélope Fillon. Bernard Cazeneuve, lui, a reçu Benoît Hamon hier. La gauche ne réussira pas sans assumer le bilan du quinquennat de François Hollande. C'est ce qu'a déclaré le Premier ministre. Près de 15 millions de personnes sont touchées par le mal-logement en France, selon la Fondation Abbé Pierre, qui publie son rapport annuel ce mardi, à quelques semaines de la présidentielle. La Fondation interpelle les candidats sur l'état du mal-logement en France, thème relativement absent des débats depuis le début de la campagne. Une partie des graves incendies de forêt qui ravagent le Chili depuis plus d'une semaine maintenant et qui ont coûté la vie à 11 personnes sont désormais maîtrisées. C'est le cinéaste espagnol Pedro Almodovar présidera le jury du 70e Festival de Cannes. Ce sera du 17 au 28 mai. Le Centre Pompidou fête ses 40 ans aujourd'hui. Il a été inauguré le 31 mai 1977. On va noter quand même que c'est le seul musée parisien à avoir connu une hausse de sa fréquentation l'an dernier. Et puis le coup d'envoi ce soir des 16e de finale de la Coupe de France de football. Parmi les rencontres, Bordeaux va recevoir Dijon à 18h et Marseille va recevoir Lyon à 21h.
Oui, mais vous voyez, parce que je dis à Atmen qui vient d'arriver là.
Oui, j'étais chez moi.
Je trouve que vous n'avez pas mis d'humeur, par exemple Pedro Almodovar qui préside. Il y a des bonnes nouvelles c'est dommage de pas
mettre... Un petit côté andalou qui arrive. Moi, je me suis levé, j'étais dans mon lit, j'ai entendu ça, je me suis habillé, j'ai pris le premier taxi qui passait pour dire ma révolte, ma colère, mon désarroi.
François, vous avez une météo flamenco aussi ou pas?
Oui, le temps sera variable selon les villes et les régions. À certains endroits, il fera bien beau. À d'autres, un peu moins. C'est toujours comme ça, la météo.
Merci pour ces informations.
Il faut le retrouver Porte des Lilas dans le métro.
Jack, souvent.
Ça, partez pas. Édouard.
Qu'est-ce qui se passe?
Édouard, je suis dans le hall du... je sais pas comment ça s'appelle.
Moi non plus.
Au Novotel, là. Il y a un Novotel à côté des tours.
Vous êtes à Paris, là, vous êtes où?
À Bagnolet, à Paris.
Oui.
Et je viens de... Donc, il y a à peu près 6 ou 7 cars de CRS qui sont garés sous le Porsche.
6 ou 7, soyez précis quand même.
En convention ici, ils sont 6 précisément, voilà. Et donc, j'ai demandé à parler avec un CRS, mais il n'a pas voulu parce qu'il était en train de regarder un film sur un téléphone portable. Et puis, là, il y a des conventions, tout le monde prend le casque, écoute un petit peu, puis tout le monde s'en va. Voilà. Ouais. Là, je vais réessayer. Bonjour, madame.
Bonjour.
Ah, voilà, quelqu'un sympa.
Bonjour.
Il y a plein de conventions ici, il y a plein de... Qu'est-ce qui se passe?
Bah, c'est un peu le principe d'un hôtel, ça reçoit des conventions.
Bah non, moi, je vais dormir à l'hôtel.
Bah oui, mais enfin, il y a aussi des salles de conférence pour faire des conventions.
Quelle chambre?
Alors, c'est une convention de quoi?
C'est le syndicat Alliance. Syndicat numéro 1 chez les gardiens de la paix, gradé, de la police nationale.
Ah d'accord, c'est pour ça, les cartes de CRS.
Bah oui, c'est pour ça, ouais.
J'ai rencontré quelqu'un de la PAF aussi.
C'est pas pour ça, les CRS sont logés là.
Voilà. Et vous êtes genre chef syndicat Alliance?
Non, pas du tout. Je suis pas chef, mais je suis délégué syndical, ouais.
Je vous passe un copain. Regardez, je vous passe, mettez ça sur les oreilles. C'est un ami, je vous le passe, voilà.
Bonjour madame.
Oui, bonjour.
De quoi on va débattre ce matin dans cet hôtel de la Porte Bagnolet?
Eh ben, on espère que la légitime défense pour les policiers va bientôt passer à l'Assemblée nationale, que nos sénateurs et nos députés auront pris en compte nos revendications. C'est une grande revendication de nos collègues, donc on espère que ça va passer bientôt.
C'est comment l'ambiance là? Vous êtes dans une grande salle des congrès, tout le monde est là, les gens sont en uniforme, en civil
Ben non, les gens ne sont pas en uniforme, c'est un congrès syndical, ils sont en civil.
C'est très mixte ou pas trop? Vous êtes seul face à des moustaches?
C'est moyennement mixte.
C'est assez mixte, il y a quand même du poil. Hein.
Alors, soyez poli avec madame. Dites-moi, ça rigole bien, c'est sérieux, c'est tendu?
Ah non,
ça...
non, c'est très sérieux. Hein. C'est un syndicat sérieux, Alliance.
Non, mais le syndicat peut être sérieux, mais soi-même, on peut avoir envie de légèreté, de détente. Il y a un grand repas à l'heure du déjeuner?
Non, il y a juste un petit déjeuner, tout simple. Non, c'est pas festif, hein, c'est une réunion de travail.
Mais on peut mêler les deux, non?
Ah bah oui, le soir peut-être. On a quartier libre le soir, donc on peut sortir, effectivement. Mais,
et on en sort quoi? On en sort d'habitude d'une réunion comme ça? On en sort avec de l'espoir, avec un peu avec de l'amertume? On sort comment d'une grande réunion syndicale comme ça?
Ah, on sort boosté.
Boosté.
Reboosté par notre secrétaire général.
C'est parce qu'on est plusieurs, on se
prêt
tient chaud.
Prêt au combat.
Vous voulez en découdre, madame, ce matin ou pas?
En découdre, non, mais on est très motivés pour défendre nos collègues, ils en ont besoin.
Alors c'est un combat de défense, c'est pas un combat d'attaque alors?
Ah non, nous on défend nos collègues, toujours.
C'est la police défensive, la plus belle.
Oui, voilà, exactement.
Il y a des flashs qui crépitent autour de nous, c'est incroyable.
Ah, c'est ça d'être une star.
Alors tout le monde, Edouard, tout le monde nous regarde.
Oui.
Il y a à peu près 9 personnes qui sont autour de nous, qui nous regardent. Je pense qu'ils vous attendent, non?
Bah oui, parce qu'on va pas tarder à aller prendre le bus, là. Ouais.
Bon, bah alors madame...
Là, on vous retarde.
À part vos responsabilités syndicales, vous êtes dans quel corps? Vous êtes en uniforme? Vous êtes en civil, vous, dans votre métier, madame?
Non, je suis en uniforme.
Alors, quel type d'uniforme? On va essayer de le décrire un peu. Comment êtes-vous?
Je vais peut-être pas avoir le temps. Bah, l'uniforme de la police, hein,
oui.
Vous connaissez. Vous avez déjà vu des policiers, quand
oui,
même.
Oui, mais ça dépend. Il y a beaucoup de corps de policiers. Ouais. On serait sur une vareuse bleue, on est sur une jupe ou sur un pantalon ou sur un...
Ah, oh, monsieur, vous êtes très...
Je vous prie de m'excuser, mais est-ce qu'on a... Il y a une casquette? Qu'est-ce qu'on aurait?
Bah oui, on a une casquette, on a un uniforme. Enfin,
oui.
Je pense que vous avez déjà vu un uniforme de police.
Et avec des galons ou sans galons dans le cadre de votre uniforme personnel?
En ce qui me concerne, avec des galons, oui.
Combien de galons avez-vous, madame?
Je suis major de police.
Major de police, c'est combien de galons?
Bah, c'est un galon qui représente le grade de major de police. Voilà.
Et dans votre uniforme de protocolaire de grands événements, portez-vous des galons d'oreilles? Y a-t-il des boutons d'oreilles ou est-ce que c'est une tenue qui reste sobre, même dans les grands événements?
Non, ça reste très très sobre.
Même dans les...
Bon, par contre, je vais être obligée de vous laisser parce que j'ai mes collègues qui m'attendent.
Bien sûr, chère madame.
Au-dessus.
Mode policière. Ce matin, nous recevons François Rollin, qui est spécialiste en mode policière. François, pour vous, une belle réunion policière, c'est d'abord du galon doré, une casquette très ajustée sur une tête bien faite et des souliers bien cirés.
Je dirais que le regard qu'il faut porter sur le costume, il ne faut pas le porter depuis l'extérieur, il faut que chacun le porte depuis son intérieur, c'est-à-dire que chacun soit bien dans son costume de police, plutôt que d'essayer d'épater une population qui de toute façon s'en moque un peu. Donc je crois que c'est que chacun sente l'ajustement qu'il peut y avoir entre les coloris, les matières... Et son intention, ses buts dans la vie, notamment ses buts syndicaux s'agissant
bien sûr
de défendre les articles 6 et 41.
Habiter son costume de policier en toute occasion, que ce soit en soirée mondaine comme en charge de manifestants, Ahmed Khalif, c'était un sujet qui vous tient à cœur?
Pas du tout, moi je m'en fous, parce que je vais vous dire, l'argent ça sort de la poche à qui? Qui c'est qui paye ses costumes? Ça sort de la poche à Ducon, puis Ducon là en a marre, voilà. Non mais je le dis quoi, voilà.
Bon bah je ne sais plus, il y a un moment où je...
7h, 9h, plus près de toi.
Eva,
plus près de toi. 7h, 9h,
Edouard Baird.
Oh mon Dieu, il me caresse l'oreille, ce con.
Moi, je sais pas les marins, quand ils sont seuls, à quelle heure ils se lèvent. On va voir Carmel Lecléache.
Le réveil d'un monument.
Vous pouvez pas laisser pioncer les gens le matin, non?
Réveillons un monument national.
Héros collectif et vainqueur solitaire, Armel Lecléache a remporté le Vendée Globe Après avoir été deux fois de suite sur le podium, la troisième était la bonne. À bord de ce bateau au nom étrange, Banque Populaire, y a-t-il un rapport avec une vraie banque? Il est arrivé en tête ce matin, il est à quai, il est au sol. C'est comment un marin au sol? Bonjour Armel Lecléache.
Bonjour Edouard Baird.
Armel, je sens, j'entends une voix très réveillée, est-ce à dire que vous n'êtes plus dans votre lit?
Non, je me suis réveillé, enfin c'est surtout ma fille qui m'a réveillé ce matin, parce que j'ai repris un petit peu la vie terrestre depuis mon arrivée, et je m'occupe de mes enfants, et je les amène à l'école, donc il faut se lever un petit peu tôt.
Alors votre vie est vraiment scindée en deux, Armel Lecléache, c'est-à-dire qu'il y a la vie au sol?
Oui, c'est vrai, il y a la vie au sol avec la vie de tout le monde, avec la vie de famille, la vie de tous les jours, et puis la vie en mer, qui est bien différente au niveau du sommeil notamment.
Donc ils vous ont pas vu depuis longtemps, donc tout à coup on dort tous ensemble, il y a une sorte de chambre collective pour toute la famille.
Ah, ça a été presque ça, ouais. Les premières nuits, on était encore au sable de l'Aune, et c'est vrai que le matin, ils sont venus, j'ai deux enfants, ils sont venus nous réveiller très tôt parce qu'ils voulaient être sûrs que j'étais pas reparti. Malheureusement, on a dû aller à Paris très vite après pour pas mal de rendez-vous médiatiques, mais ils voulaient être sûrs que au moins les deux premières nuits, j'étais bien là. Et donc la première nuit a été très courte, j'ai pas pu vraiment me reposer encore.
Parce qu'ils ont peur quand vous êtes loin, Armel?
Oh, je pense qu'il s'inquiète un petit peu, ouais, bien sûr. Il y a un peu d'inquiétude. Après, je pense qu'il se rend pas forcément compte de ce que je fais ou des dangers que je rencontre en mer, mais peut-être heureusement. Et puis, mais ils suivent ça de près, effectivement. Ils sont surtout contents de quand je suis là. Et puis, ils veulent pas que je reparte parce que surtout là, c'était long, c'était 74 jours, donc c'était une longue absence.
74 jours, oui, j'imagine, c'est étonnant de dire que oui, que vous ne voulez pas trop dire, vous ne voulez pas qu'ils partagent trop vos peurs et les dangers que vous rencontrez. Armel, on va essayer de se replonger grâce à une petite musique, et si vous acceptez de fermer les yeux dans une nuit ou un matin en mer, vous êtes là, 74 jours, on imagine que vous êtes le 40e jour, vous venez justement de franchir les 40e rugissants, ces endroits qui font peur même aux marins les plus aguerris. Vous êtes dans votre bateau, Banque Populaire, est-ce que vous avez dormi?
Bah, on dort, on essaie de dormir un petit peu par tranche de 40-45 minutes. Et puis c'est vrai que des fois, le réveil est brutal parce qu'on a... Moi, j'ai à bord, j'ai un compte à rebours avec un minuteur avec une grosse alarme. Et des fois, on est en train de rêver. On part dans des délires parce qu'on est un peu en manque de sommeil. Donc des fois, les rêves sont un petit peu étonnants. Et puis d'un coup, l'alarme sonne et on sait plus trop où on est. Et on se retrouve dans une espèce de machine à laver en mode essorage où ça bouge beaucoup, c'est beaucoup de bruit, il fait froid, et puis on est habillé en ciré avec les bottes aux pieds parce qu'on est prêt à sortir sur le pont pour manœuvrer. Donc voilà, ça peut être assez brutal, assez fort. Et puis au bout de quelques secondes, on se retrouve dans la réalité et il faut réagir rapidement. Ouais.
Pas changé, pas douché. Attaché peut-être à son lit, est-ce qu'on est dans l'obscurité, est-ce qu'on est dans la lumière?
Ah bah un peu les deux, c'est vrai qu'on a, la nuit notamment, on fonctionne avec des lampes frontales, donc moi je dors pas avec parce que sinon, si je me tourne un peu, ça peut faire mal à la tête, mais je la mets très près de là où je dors, et puis il faut s'habituer à ce côté un peu nocturne. La nuit, on vit avec des afficheurs, en fait, on a des écrans avec des chiffres qui bougent, et c'est ça un petit peu nos repères. Et puis quand on sort dehors, et ben effectivement, il faut s'attacher, il faut être prudent parce que on est tout seul, donc on sait qu'on n'a pas le droit à l'erreur, et notamment quand les mers sont fortes, ben il faut être concentré. Donc il faut prendre un petit peu de temps, faut pas sortir tout de suite du lit et aller directement dehors, il faut prendre quelques secondes pour
se concentrer. Il y a des moments vraiment de panique, on se réveille, on ne sait pas où on a envie de crier, il y a des peurs quasiment enfantines parfois.
J'ai pas eu ça sur ce Vendée Globe, mais c'est vrai que ça arrive des fois de se réveiller, parce qu'on a aussi des alarmes quand il y a des bateaux autour, des dangers, ou le vent qui change brutalement, ça m'est arrivé, et c'est vrai que là c'est un petit peu la panique, parce qu'il faut réagir rapidement. On met un petit peu de temps à se retrouver à bord du bateau. Ça peut être compliqué, ouais, ça peut être très compliqué.
Armel Lecléache, est-ce que parfois vous dormez dehors? Est-ce que c'est vrai que la lune, c'est vraiment une compagne pour les marins?
Oui, on aime bien quand la lune est là, ouais. ça fait du bien. On a eu quelques pleines lunes, hein. C'était comme ça agréable. Et quand on n'a pas de nuages, ça permet vraiment d'éclairer le bateau.
Ça tient compagnie. Oui.
Ouais, c'est une compagnie. Ça permet d'avoir effectivement une luminosité importante la nuit. Donc ça, c'est pas mal. Ça évite d'avoir des nuits noires comme on a eu notamment dans les mers du Sud, où là, on voit rien du tout. Et c'est vraiment les lumières, enfin les lampes à bord qui vont éclairer. Et c'est vrai que la lune, ça fait du bien. On voit aussi, on aperçoit en fait aussi, surtout les vagues autour, l'état de la mer. Donc ça peut rassurer.
Vous parlez tout seul parfois en mer ou pas?
On se parle un peu dans la tête, oui.
Mais pas à l'extérieur. Vous me jurez qu'il y a pas, vous vous levez pas le matin en disant « Salut Armel, ça va ?» et vous vous répondez « Moyen
». Non. On parle à son bateau. Ouais.
Est-ce qu'il répond route, hein. la peur, ah, c'est... Il répond?
Non, il répond pas, mais on sait qu'il est, là et qui surtout, il prend soin de nous. C'est lui qui nous ramène à bon port finalement et il faut prendre soin de lui et c'est un compagnon de route et enfin, c'est une belle histoire avec le bateau.
Et puis la fin de ces 74 jours, on arrive au quai, on sait qu'on a gagné, que plein de monde vous attend sur le quai, des photographes, le monde, la société. On a peur, on est excité.
Oui, on a un peu peur, on est surtout content d'arriver parce que c'est aussi finalement un relâchement, de lâcher cette pression, ce stress de cette course. Et puis surtout très heureux de retrouver sa famille, ses enfants, les gens qui sont là. C'est assez brutal finalement, c'est vrai, parce que la solitude s'est installée à bord du bateau. On s'est habitué à des petits repères, à cette petite vie un peu tranquille sur le bateau finalement. Et on retrouve très vite énormément de monde qui sont là que pour nous et ça fait voilà, c'est impressionnant et puis on a un petit peu voilà, on a du mal à trouver ses repères finalement quand on arrive et heureusement on est entouré et puis on s'est un petit peu emporté par la vague et puis voilà, on contrôle plus trop grand chose.
C'était le 19 janvier, il était 16h37, c'était au Sable d'Olonne après 74 jours, 3h35 et 46 secondes. Armel Le Cléache est revenu à la société. Merci, cher Armel.
Merci beaucoup à vous.
Bonne journée.
À très bientôt.
À bientôt.
Bonne journée.
C'est beau, ça. Bonjour, Marie.
Bonjour, Edouard.
C'est à vous.
Qui c'est qui a dit qu'elle travaillait pas, qu'elle fait que lire le journal? La revue de presse de Marie, Misset.
Bonjour, tout le monde.
Oui.
Alors que le mot Donald Trump revient en boucle sur nos écrans, sur nos lèvres, sur nos hauts du cœur, et qu'on apprend ce matin dans lemonde.fr qu'il vient de virer Sally Yates, ministre de la Justice par intérim, qui s'était élevée contre le décret anti-musulman, dans le New York Times, le double prix Pulitzer Nicolas Christophe nous invite tous et toutes, à regarder le monde autrement, à continuer bien sûr à surveiller ce qu'il se passe autour du Donald, mais à voir aussi d'autres choses. Aujourd'hui, 31 janvier, comme hier et comme demain, 250 000 personnes dans le monde vont sortir de l'extrême pauvreté. Plus important qu'un tweet de Trump, il insiste, 18 000 enfants survivront encore aujourd'hui là où ils seraient morts dans les années 90. L'extrême pauvreté a beaucoup reculé depuis les années 80 où elle représentait 40% de la population mondiale contre 10% aujourd'hui et on s'approche d'un 3-4 sur les 30 prochaines années. Attention, on sent bien qu'il ne veut pas passer pour un béni ouéoué content de lui. Il veut simplement qu'on décale le regard, qu'on change un petit peu de lorgnette, exercice auquel il s'est habitué puisqu'il est connu en tant que journaliste pour avoir couvert des conflits.
À toutes vos voyelles, reprenez-vous.
Connu pour avoir couvert des conflits oubliés, ignorés, que certains considèrent comme périphériques. Changer de regard, c'est aussi ce que faisait l'avocat anti-peine de mort puis anti-incarcération, feu Thierry Lévy, auquel Libé réserve une belle page aujourd'hui. Son ancienne collaboratrice défendue témoigne que ce pourfendeur infatigable du système carcéral, qui produit plus d'injustice qu'il n'en répare, avait de l'estime pour ce qu'il défendait. Il cherchait de l'innocence, pas forcément judiciaire, elle ajoute, de l'innocence tout court. Et chez tout le monde. Il observait donc ses clients hors cadre. À tel point que lui, enfant juif, caché pendant la guerre, avait déclaré qu'il aurait volontiers défendu Maurice Papon. Ça donne un peu une idée de l'estime qu'il avait pour son propre métier. Quant à l'Indienne Arundhati Roy, elle permet un autre décalage du regard. Ce n'est pas elle qui regarde différemment. En étant elle-même, elle amène d'autres à considérer les choses autrement. D'abord, dans son pays, en Inde, où son premier roman, Le Dieu des petits riens, était une histoire d'amour entre un intouchable, un dalit, et une bourgeoise chrétienne très riche, qui a bousculé et désencasté un petit peu le pays. Son interview est à découvrir dans le numéro 2 de L'Entretien. L'Entretien, ça compile des entretiens avec Laura Adler et Alain Weinstein. Quand ils lui disent, par exemple, qu'elle a été sérieusement harcelée, poursuivie, stigmatisée par l'Inde, quand elle s'est déclarée anti-essai nucléaire, anti-déforestation, elle répond, attention, pour commencer, vous savez, les gens aiment bien dire que tout le monde était furieux contre moi en Inde, ça n'est pas vrai, c'est l'élite qui n'était pas contente et qui aime bien se définir comme étant l'Inde, donc ils aiment bien penser qu'ils sont les seuls à décider qui est en colère. Quand ils lui disent qu'elle est militante, qu'elle porte le combat des maoïstes, qu'elle a passé du temps avec eux dans la forêt pour comprendre le sens de leur lutte, elle répond que ça l'agace quand on lui dit qu'elle est la voix d'eux. Non, je ne pense pas qu'on puisse prendre la voix de quelqu'un d'autre qui n'en aurait pas. Je ne veux pas être le leader de quoi que ce soit, parce que de toute façon, dans ces sociétés réprimées, il y a aussi des points d'interrogation. Tout le monde n'est pas blanc. Il y a des violences et des difficultés internes. En gros, elle renvoie un peu Laura Adler et Alain Weinstein dans leurs questions. Un entretien à découvrir donc dans la revue L'Entretien. Puis si vous voulez une application concrète à cette chronique qui était consacrée au fait de regarder les choses un petit peu autrement, par en dessous, par derrière, par au-dessus, par aux côtés, rendez-vous à Beaubourg, où un artiste en herbe colle à côté des extincteurs, prises électriques, des petits cartons pour désigner des œuvres d'art. Par exemple, à côté d'une prise électrique, on peut en ce moment lire 2017, plastique et métal, dimension O. 9 cm, large 7 cm. Dans le Figaro, on lit que Beaubourg soupçonne un de ses employés, mais ne cherche pas le coupable. Ça les amuse. Un extincteur, œuvre d'art, un œil qui s'exerce. Rien de bien nouveau au musée Pompidou.
En vous remerciant, chère Marie, il y a trois erreurs de voyelle que oui. Je vous signifierai après la réunion de rédaction. Tout de suite après, François Rollin et l'animal du mardi.
7h, 9h, Édouard Baird.
Plus près de toi.
Plus près de toi.
Ils ont la niaque, ces jeunes.
Oui, tout à fait.
Oui, d'accord, mais enfin, on l'a déjà eu, la pub MAF, tout à l'heure.
C'est vrai.
S'ils la remettent, c'est que les gens n'en ont pas acheté. Alors, soyez gentils.
Il y a peut-être l'auteur dans la
alors,
salle.
Alors, installez Léa Drucker. Elle a ce qu'il faut, là, ou pas? Vous avez des... Non, je vous vois voir si tout va bien. Restez là, parce que là, c'est l'animal du mardi, François.
Oui, l'animal du mardi. Donc, après le tapir, le chamois et le caillou, ce matin, l'écureuil. L'écureuil saute gracieusement de branche en branche. Il est le seul de toute espèce animale à agir de la sorte. Le rhinocéros, lui aussi, saute de branche en branche, mais pas gracieusement du tout. De son côté, le saumon saute gracieusement, mais il n'a aucun contact avec les branches. Autre exclusivité de l'écureuil, Édouard, face à l'ensemble des espèces vivantes, il récolte les noisettes et il les cache dans un trou. A contrario, les employés de chez Nutella récoltent aussi les noisettes, mais ils ne les cachent pas dans un trou, ils les mettent dans des pots en verre avec un couvercle grossier en plastique blanc. Il faut évoquer le paradoxe de l'écureuil. Il arbore une queue en panache, je dis bien il arbore une queue en panache, tout le monde croit que c'est une contrepétrie, mais en fait non. Le petit plus de Nova, beaucoup de gens pensent que l'écureuil est méchant, qu'il fraude le fisc et qu'il martyrise les enfants. En réalité, l'écureuil est gentil, il paye honnêtement ses impôts et il n'est pas rare qu'il paye l'apéro aux enfants de son quartier. Ce sont des opérations intitulées « Par ici, la limonade ». Merci Édouard.
Merci François, c'était de haute tenue, le journal de 8h30.
Selon l'INSEE, la croissance du PIB pour produit intérieur brut, bien sûr, a atteint 1,1% l'an dernier. C'est un chiffre inférieur aux prévisions du gouvernement qui tablait sur une progression de 1,4% en 2015. La croissance était établie à 1,2%. Et autre enseignement, la consommation des ménages et puis l'investissement des entreprises ont augmenté. Les sans-abri, contraints de dormir dehors, choquent les consciences, surtout lorsque le thermomètre descend. Ils ne sont pourtant que la face la plus visible de la crise du logement en France. Près de 15 millions de personnes seraient touchées par le mal-logement en France. Selon la Fondation Abbé Pierre, qui publie son rapport annuel ce mardi, à quelques semaines de la présidentielle, la Fondation interpelle les candidats sur l'état du mal-logement en France, thème relativement absent des débats depuis le début de la campagne. Entendu hier pendant 5 longues heures au parquet national financier dans l'enquête sur des soupçons d'emploi fictif, François Fillon et son épouse Pénélope ont affirmé à l'issue de leur audition avoir apporté des éléments utiles à la manifestation de la vérité afin d'établir le travail réalisé par Pénélope Fillon. Le Conseil de sécurité des Nations Unies va se réunir aujourd'hui à la demande des États-Unis pour discuter possibilité d'un tir de missile de moyenne portée effectué par l'Iran. C'était le week-end dernier. On l'appelle attorney général, c'est le ou la ministre de la Justice aux États-Unis, en l'occurrence là, nommé par Obama. Sally Yates occupait le poste par intérim en attendant que Donald Trump lui nomme un successeur, occupé parce que le nouveau président américain vient de la limoger en raison de son opposition au décret sur l'immigration. Un décret qui met toujours le feu aux poudres depuis sa signature vendredi. La tension, notamment aux États-Unis, mais plus généralement sur l'ensemble de la planète, ne retombe pas du tout. Barack Obama est sorti de son silence. L'ancien président américain dénonce toute discrimination fondée sur la croyance ou la religion. Il s'est félicité de la mobilisation aux États-Unis. Rappelons que ce décret sur la protection de la nation contre l'entrée des terroristes étrangers aux États-Unis interdit de territoire les ressortissants de 7 pays, l'Iran, l'Irak, la Libye, la Somalie, le Soudan, la Syrie et le Yémen. Les suites de la fusillade dans une mosquée de Québec, un jeune étudiant québécois a été inculpé du meurtre avec préméditation. Le bilan provisoire de cette fusillade s'établit ce matin à 6 morts, mais il y a aussi 5 blessés graves. L'auteur de cette fusillade pourrait être prochainement inculpé pour terrorisme et atteinte à la sécurité nationale. Une partie des graves incendies de forêt qui ravagent le Chili depuis plus d'une semaine maintenant et qui ont coûté la vie à 11 personnes sont désormais maîtrisées. Plus de 1000 habitations, près de 380 000 hectares de forêt sont partis en fumée. C'est le cinéaste espagnol Pedro Almodovar qui va présider le jury du 70e Festival de Cannes. Ce sera du 17 au 28 mai. Emblème culturel, premier établissement à rassembler sous un seul toit art moderne et art contemporain, le Centre Pompidou fête ses 40 ans aujourd'hui. C'était le 31 janvier 1977. Et puis le coup d'envoi ce soir des 16e de finale de la Coupe de France de football. Parmi les rencontres, Bordeaux va recevoir Dijon à 18h et Marseille va recevoir Lyon à 21h.
C'est mieux quand vous dites recevoir. Avant vous disiez ils vont se confronter, ils vont se battre. J'aime bien l'idée de recevoir. Bravo, hein. Vous faites un très gros effort.
Oui, Atmen. Il y avait un jeu de mots dans son info. Il y avait la tournée générale. Et je trouve ça pas mal. La tournée générale.
Ça n'était pas volontaire.
Non.
Tito, merci de faire la liaison musicale puisqu'on a plus tant d'autres choses. On a l'heure du grand Nawak des amis lyonnais qui sont là. C'est quoi cette émission sur RTU à Lyon, l'heure?
C'est un rendez-vous quotidien, musical. Je reçois des invités.
Et vous êtes passé nous voir comme ça?
Ouais, voilà, pour dire un petit bonjour. On est au salon de la radio en ce moment.
Ah, il y a le salon de la radio. Ça se passe. Vous êtes contente là? Ça ressemble à votre émission ou pas?
Le salon de la radio?
Non, ici.
ouais, quelque chose près. Il manque du monde, moi. J'aimerais bien avoir un peu plus de monde aussi qui viennent.
Faites comme nous, dites aux gens de passer sans être payés, c'est ce qu'on fait. Et comme ça, les gens viennent. Mais merci. Lors de RTI Radio Trade Union, pardon.
J'ai pas de guitariste.
Non, mais il faut dire Tito non plus. Tito, il vient pour le plaisir. Merci Tito. Alors, il y a plus la météo Tito. Bonjour Cyril Dion.
Bonjour
Cyril. Non Tito. Alors Cyril Dion, le co-réalisateur de Demain, est avec nous car aujourd'hui c'est l'appel des colibris. De quoi s'agit-il? Oh Thomas Baumgartner, toi qui sais tout.
Ah bah on va poser la question à Cyril Dion, mais ça s'appelle même le chant des colibris. C'est aujourd'hui que ça se passe, cet appel des colibris. Colibris, ça existe depuis 10 ans. Il y a eu ce film, votre film, Demain, en 2015, il y a un an et demi,
ouais,
c'est ça?
Oui, décembre 2015, oui.
Voilà. Et
magnifique film, je l'ai vu très récemment parce que je n'ai pas eu la sortie, j'ai eu la chance de voir le DVD, c'était un film extraordinaire. Hein.
Et donc les colibris, Cyril Dion, c'est un nouvel élan aujourd'hui, c'est un... Pas un nouveau départ, parce qu'il existe depuis 10 ans, mais c'est une étape importante.
Moi, je suis hyper content de savoir que Edouard a aimé le film.
Après, je m'étais dit, en même temps, je me dis ça, j'ai peut-être que tout le monde s'en fout.
Il a mis énormément de temps à le voir, mais oui. C'est pas grave, finalement.
Oui, pas grave.
Non, l'idée, oui, c'est de profiter en fait des élections présidentielles, où c'est un moment où la plupart des gens finissent par s'intéresser à un certain nombre de questions politiques. Pour dire que finalement, il ne s'agit pas uniquement de voter pour un candidat, mais qu'on en est arrivé à une telle situation écologique, économique et sociale qu'il faut que tout le monde s'y mette. Donc cet appel du monde de demain qu'on lance aujourd'hui, c'est mobilisons-nous, qu'on soit entrepreneurs, citoyens, élus, et faisons en sorte de construire une société qui marche à la fois pour les êtres humains et pour la nature.
Non, ce n'est pas spécialement un appel aux candidats au pluriel, à l'élection présidentielle.
Ben non, puisque ça, on a déjà essayé plein de fois, et puis on a vu que ça marchait pas très très bien.
Pourquoi ?
C'est-à-dire que la plupart du temps, pendant la période électorale, ils s'engagent, comme ça a été le cas pour le pacte écologique en 2007. Ensuite, il y a eu le Grenelle de l'environnement, et on voit bien que les mesures qui accouchent de ça sont finalement relativement faibles par rapport à ce dont on aurait besoin. Et puis, ce dont on se rend compte, c'est que pour qu'une démocratie marche, pour que des élus puissent faire quelque chose de courageux et d'envergure, il faut qu'ils aient un mouvement derrière eux. C'est-à-dire que s'il n'y a pas des millions de personnes qui s'engagent et qui disent, par exemple, on veut que vous meniez une politique courageuse pour le changement climatique, il ne faut pas non plus espérer que les responsables politiques qui sont pris entre leur administration, les lobbies et leurs intérêts électoraux vont faire ce type de mesures.
Donc il faut que la société civile s'empare de ça, clairement, et par exemple à travers cette manière de l'appel de ce champ des colibris, donc tout un chacun peut s'inscrire à cet appel-là ?
Alors voilà, l'appel va être publié dans Le Monde aujourd'hui, puis sur Internet, tout le monde va pouvoir le signer. Le but, c'est d'être des millions de personnes à dire, voilà, nous, on se reconnaît dans ce projet de société, dans cette vision de l'avenir. Et puis, il y a une tournée avec 6 dates, où il y a à chaque fois une soirée concert avec en moyenne 8 artistes qui se succèdent. Donc il y aura Alain Souchon, Mathieu Chédid, Émilie Loiseau, Tété, Arthur Hache,
Dominica
et j'en oublie.
Christine Salem.
Voilà.
Alors si on signe l'appel du chant des colibris, on signe pourquoi concrètement? Qu'est-ce qu'on demande avec vous si on...
En gros, l'idée, c'est vraiment de se compter. C'est-à-dire de prendre conscience qu'on est des millions à vouloir construire un autre projet de société. Et ce qu'on demande aussi, c'est aux candidats qui portent ces idées-là de se rassembler aujourd'hui. On voit que malgré tout, notre travail a fini par porter un peu ses fruits. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui plusieurs candidats aux élections présidentielles qui commencent à parler d'écologie, et c'est chouette. Notamment Benoît Hamon, Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot, puisque c'est son métier. Donc on voudrait bien que ces gens-là puissent s'entendre une bonne fois pour toutes, pour porter ce projet, et pas simplement essayer de continuer à nourrir leur propre chapelle.
Alors ce qui est formidable dans Demain, c'est le côté très concret, c'est de voir des gens qui vivent d'une façon différente, qui réinventent un peu leur quotidien. Moi j'aime bien les choses concrètes, dites des choses qu'on pourrait faire à part signer des pétitions et aller à des concerts, qu'est-ce que nous on pourrait faire pour vivre différemment?
Ce que vous appelez les citoyens en transition.
Ouais, ben là on appelle les gens à faire tout ce qu'ils peuvent, c'est-à-dire... Ça dépend à quelle échelle on se place, mais nous, dans notre vie de tous les jours, on peut commencer à manger beaucoup moins de viande et beaucoup moins de poisson. Aujourd'hui, manger de la viande, par exemple, c'est une des causes majeures de la déforestation et du réchauffement climatique. On peut changer de banque, aller dans une banque qui n'investit pas dans les énergies fossiles et qui spécule pas sur les marchés. On peut changer de fournisseur d'électricité, on peut aller chez Enercoop, par exemple, qui est un fournisseur d'électricité 100% renouvelable.
Enercoop.
Ouais, Enercoop. Oui. Très facile. On peut commencer à acheter moins de trucs, à acheter des choses qui durent plus longtemps. On peut aussi imaginer concentrer plus d'énergie à faire des choses qu'on aime et qui nous épanouissent et pas faire un métier, ce qu'on appelle les bullshit jobs, et être obligé finalement de compenser notre désespoir en allant passer nos samedis après-midi dans des supermarchés ou aller à l'autre bout du monde pour partir en vacances.
Enfin pour ça, il faut aussi avoir le choix de son métier, éventuellement.
Ben oui, avoir le choix, c'est quelque chose qu'on peut peut-être...
Choisir.
Alors beaucoup de gens, j'ai l'impression, surtout les gens les plus jeunes, sont plus du tout derrière des candidatures politiques, réinvestissent la politique comme ça en vivant différemment, en étant très fiers, en disant « moi je fais ça, moi je mange ça, moi je vais pas là ».
Mais la politique, en fait, ça marche bien à l'échelle nationale ou internationale si ça marche bien déjà au niveau local. C'est-à-dire que si les gens se réemparent de leur vie au quotidien, et y compris dans leur ville, dans leur quartier, on a des chances que la démocratie puisse mieux marcher après. Et on a besoin aujourd'hui de construire des territoires où on produit de la nourriture pour alimenter les gens, où on produit de l'électricité, où on a une économie locale qui s'enracine un peu. C'est ce qu'on a essayé de montrer dans Demain, c'est qu'on connaît plein de solutions. On sait faire de l'agriculture sans pesticides et sans engrais. On sait faire des énergies renouvelables suffisamment pour alimenter tout le pays. On a encore un scénario qui est sorti là il y a peu de temps, qui s'appelle le scénario Négawatt. On sait construire des économies qui répartissent mieux les richesses, qui évitent de faire qu'on a 8 personnes en ce moment qui possèdent autant d'argent que 3,5 milliards d'autres.
Mais ce qui est bien là-dedans, c'est que c'est pas culpabilisateur. Moi, ce que j'aime bien dans Demain, c'est des portraits de gens qui ont l'air fiers et heureux de la vie qu'ils ont choisie.
Mais c'est pour ça que je disais qu'on peut commencer par faire ce qu'on aime. C'est-à-dire que le point commun de tous les gens qu'il y a dans Demain, c'est que c'est des gens qui font des choses qui les passionnent, qui essaient de donner du sens à leur vie. Et pour moi, le premier truc qui nous enferme dans cette société, c'est que la plupart du temps, on est obligé d'aller au boulot pour avoir un salaire à la fin du mois, et que ce truc-là fait qu'on met l'essentiel de notre énergie à avoir un salaire, pas à construire un monde dans lequel on aurait envie de vivre.
Cyril Dion, les Colibris lancent un appel, lancent un chant, le chant des Colibris. On peut le lire, donc vous le disiez, dans Le Monde aujourd'hui, sur le site lechantdescolibris.fr, qu'on peut signer cet appel-là, un appel pour le monde de demain. Et puis les concerts, ça commence le 25 mars à Bordeaux, ensuite il y aura Paris, Nantes, Marseille, Strasbourg, Toulouse, tout ça jusqu'au mois de juin régulièrement.
Absolument.
Thomas, merci. Vous avez bien recontextualisé tout ça. Je trouve que c'est bien parce que vous avez lancé le sujet. Vous l'avez fait voyager et à la fin, vous resignez le truc. Je trouve ça remarquable. Je trouve qu'il y a un beau travail.
Toujours merci.
Vous pouvez être fier de vous
ça
aussi.
Ça fait plaisir.
Vous êtes citoyen, vous êtes un honnête homme. Aussi, et moi, je tape sur la table sans raison. Vous allez faire quoi aujourd'hui, Cyril Dion?
Eh bien, aujourd'hui, on a la conférence de presse à midi. Et puis après, un peu d'interview. Et puis après, je vais essayer de rentrer chez moi.
Vous allez manger quoi à déjeuner?
Eh ben, je sais pas, j'espère que ce sera végétarien, parce que je suis végétarien.
Vous êtes végétarien. Et votre pull est en quoi?
Mon pull est made in France.
C'est de la peau de quoi?
Et mes baskets sont écologiques.
Mais c'est la peau d'un ami à moi. Merci à tous. Publicité, qu'est-ce qu'on met de la pub pour des produits qu'on...
Alors, vos désirs sont des ordres.
Non, pas, tu n'es pas mon désir, j'ai pas le choix. Et puis après, Léa Drucker nous parlera de sa pièce. Qu'est-ce qui se passe ici, alors? À tout de suite.
7h-9h, plus près de toi.
7h-9h, Édouard Baer.
Plus près de toi.
Plus près de toi.
Je trouve tout ça d'une vulgarité épouvantable. Ça me délecte.
Alors, si vous voulez jouer tout à l'heure avec François Rollin, vous appelez le standard 01 43 07 58 85. Reprenez un crayon. 01 43 07 58 85. Voilà, le jeu de François. Alors, on essaiera de faire gagner quelque chose, parce que sinon les gens sont...
Bien sûr.
On essaiera de trouver des idées.
Soyons vénaux.
Atmen, vous avez vu un air de famille avec Léa Drucker?
Oui, pas qu'avec Léa Drucker, avec Grégory Gadebois et Catherine Yégel et d'autres gens, mais j'ai vu Léa Drucker, la magnifique Léa Drucker, à la Porte Saint-Martin, elle joue un air de famille et Cuisine l'indépendance. Oui. Moi, j'ai vu qu'un air de famille, et je peux dire que Léa Drucker a déposé le rôle de Yolande, qui était détenue par Catherine Fro avant, mais elle l'a récupéré, elle a modernisé et elle l'a déposé, voilà.
Qu'est-ce que ça raconte, un air de famille, alors?
Ça raconte cette écriture qu'il y avait dans les années 90, un règlement de compte familial, comme ça, un crevage d'abcès où on révèle il y a beaucoup d'aveux, comme ça, et les gens en sortent grandis, parce qu'ils ont crevé l'abcès avec leurs parents, qu'ils ne les écoutent pas, qu'ils ne les regardent pas.
Vous vous reconnaissez, c'est ça que vous jouez, Léa? Bonjour.
Oui, bonjour.
C'est bien de glisser le bonjour au milieu de la phrase.
Oui, pour être poli.
Oui, bonjour.
Ces événements qui ont l'apparence d'un micro-événement, qui sont une réunion de famille où tout d'un coup les personnages vont se révéler, vont faire c'est des gens qui sont enfermés dans un petit masque familial, chacun le fils qui se sent mal aimé, le fils préféré, la femme un peu soumise et introvertie, et qui ce soir-là il va y avoir un événement, puisqu'il y a une personne de cette famille qui est passée à la télévision. Et ce petit événement va déclencher en effet quelque chose d'un peu révolutionnaire dans cette famille.
Des engueulades?
Des engueulades, oui. Moi, je n'ai pas fait un huissier de service.
Des aveux, des réconciliations.
Juste dire que Léa, vraiment, je n'ai pas vu ça depuis très longtemps, elle fait mouche à toutes ses répliques. Vraiment, elle envoie du bois dans la salle, tout le monde se marre, c'est l'hilarité générale, mais avec énormément de fragilité. Moi, je l'ai observée pendant tout le spectacle, elle est comme ça, elle est vraiment avec Catherine Yégel, qui est formidable, et Gadebois qui joue un bougon vraiment un nounours râleur à la Bernard Blier, parce qu'il y a un truc qui est sublime dans le spectacle. Il y a 300 mètres carrés de brasserie, oui, à l'identique, et on est vraiment chez les gens comme ça et tout. Et t'as Gadebois.
De brasserie, on est dans une brasserie.
Dans une énorme brasserie,
ah oui, oui.
Ouais, mais vraiment en fait.
Un très beau décor de qui alors?
De Adrien Ovan, c'est magnifique son décor, et c'est la brasserie qui appartient à Grégory Gadebois dans la pièce.
Au père tranquille, ça s'appelle.
Donc le rideau de fer étiré, la famille se réunit. Vous êtes cette épouse un peu soumise au début.
Oui, c'est une femme qui parle, qui est timide, qui prend pas de place, qui on coupe tout le temps la parole, et qui petit à petit
L'alcool, j'attendais l'alcool aidant, j'aime bien.
Elle pète un petit câble, elle fait une révolution sur elle-même.
L'alcool aidant.
Ouais, mais il n'y a pas que Yolande d'ailleurs qui explose. Parce qu'en même temps, c'est des pièces. Les pièces de Jaoui Bakri sont des pièces très très drôles à écouter. Enfin, pour le spectateur, c'est drôle. Et en même temps, ce sont des pièces assez. C'est des comédies dramatiques. Il y a aussi quelque chose de très profond, de très... D'ailleurs, pour les acteurs, c'est un parcours dramatique, même si les gens rigolent dans la salle.
Oui, il y a de la profondeur humaine, c'est pas des stéréotypes du tout.
Non, pas du tout.
C'est une écriture du quotidien, comme ça, d'une tranche de vie très très forte, avec plein de détails, où c'est vraiment... on met en valeur les outrances des gens. C'est-à-dire leurs petites manies qui font que tout d'un coup, on se rend compte qu'ils sont fous, quoi. Qu'ils sont fous sur leurs chiens, qu'ils sont fous sur astiquer le zen pendant des heures, tout ça et tout.
Un pub, qui reproche tout le temps à son fils, Grégory Gadebois, à Catherine Yégel, qui reproche. Moi, je voyais un pub, tu pourrais refaire la déco.
Et on lui offre un chien, un collier de chien, tout est.
Est-ce qu'on déteste les gens qu'on aime? Est-ce qu'on déteste les gens avec qui on vit? Comment ça se passe, tout ça?
Oui, on déteste. On peut tous s'identifier à cette famille-là. Enfin, c'est quelque chose dans les réunions de famille que chacun peut un peu retrouver. C'est la place qu'on choisit de prendre dans sa famille. C'est ça le thème, en fait.
Alors, Annie Jaoui, qui a coécrit la pièce, la met en scène. C'est étrange parce qu'elle avait écrit ce rôle pour elle que vous jouez.
Elle avait joué le rôle que joue Nina Meurice, qui est le rôle de Betty. Et c'était Catherine Fro qui jouait Yolande et Jean-Pierre Bacri qui jouait.
Le gars de bois.
Je m'en mêle les pinceaux.
Daroussin jouait l'autre et Bacri jouait celui que jouait gars de bois. Ouais.
Comment on reprend un rôle qui a été créé par quelqu'un d'autre? On évite de regarder la première version.
On évite, en même temps, on l'a vu et admiré, donc c'est un peu compliqué. Mais une fois qu'on commence à répéter, la pièce est tellement bien écrite, il y a des enjeux tellement forts qu'après. La contrainte, c'est comment bien jouer ce personnage, surtout.
Mais la pièce est un classique. Hein. Tous les 20 ans, on la rejouera, moi, je crois vraiment. Et puis Léa l'a vraiment bien. On a complètement oublié Catherine Fro. Moi, là, il y a devant moi le futur Molière, je le dis. Voilà. Elle est moliérisable, la petite.
Eh bien, dis donc, si ça sert bien les pompes dans cette émission.
Non,
voilà,
ça sent le copinage à l'ancienne.
Alors, tout de suite, quelqu'un qui dit un petit peu du mal de la pièce. Oui, j'ai vu un air de famille. C'est consternant, de bout en bout.
J'étais assis au fond, il y avait
une vulgarité.
Je n'ai pas du tout.
La salle n'est pas climatisée. Alors, c'est avec donc Grégory, l'immense Grégory Gadebois. Ouais.
Laurent Capelluto,
Jean-Baptiste Marcenac, Nina Meurice, Catherine Yégel, qui était votre prof au français, Edmond Kelly.
Prof français au conservatoire.
Dans la famille,
ouais.
C'est familial pour vous cette pièce.
Oui, c'est que des amis.
Vous étiez au conservatoire national, et puis après, il y a eu la boisson, la
chute,
le caniveau.
Il y a eu la boisson, la descente aux enfers, et puis vous m'avez récupéré. Enfin,
non, c'est pas
encore pire.
Mais c'est pire. Merci. Léa, vous allez jouer, on est quel jour?
Alors là, on est mardi, et là, cette semaine, on joue un air de famille.
Alors c'est ça, parce que vous jouez aussi l'autre pièce de Bacri Jaoui. Cuisine et dépendance,
voilà.
En alternance.
Samedi, on va faire. On joue les deux le samedi. En fait. Une à 17h, une à 20h30.
Ne vous emmêlez pas les pinceaux.
Voilà. Moi, j'ai pas pu l'avoir parce que Nova n'avait pas le budget pour me payer cuisine et dépendance.
Je vous invite.
Vous avez été gentil, je vous invite.
Non, mais je crois que c'est vrai. Je crois qu'il était gentil et sincère. Ce qui est rare, d'habitude, on dit tu seras gentil ou sincère.
Non, c'est vraiment un beau spectacle chic et nécessaire. Allez voir.
À la Porte Saint-Martin.
À la Porte Saint-Martin. Si vous êtes de passage à Paris, si vous y habitez, ou si vous pouvez même aller à Paris pour ça, et ensuite les grands magasins.
Et la bientôt, patata, restaurant.
Bientôt Noël.
La patata, après derrière.
Bientôt Noël.
De patates.
Des idées de cadeaux.
Face rue Montmartre.
Écoutez, ne prenez pas le pouvoir dans cette émission. Ça se passe comme ça à RTU à Lyon ou par Radio Trade Union? Non. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous m'avez envoyé, Armel Jack, souvent dans la rue?
Pour moi, c'est une dame qui quoi? Qui fait cadeau. Mais c'est qui? C'est une dame, je sais pas.
C'est pas vous?
Non, c'est pas moi. Non.
Qu'est-ce qu'elle a fait cette dame?
Non, c'est pas son fils, non.
C'est-à-dire que... j'étais dans la rue à côté de la place Édith Piaf et j'ai rencontré ce monsieur qui était à l'entrée de sa boutique, en fait, il est retoucheur.
Il est de bonne humeur, ce monsieur, oui.
Ouais, il est super bonne
humeur. Bonjour.
Bonjour, monsieur.
Ça va?
Et vous?
Ça va, merci, ça va.
Merci, monsieur. Qu'est-ce qui vous fait rire ce matin? C'est la retouche elle-même ou c'est...
Non, comme ça, je racontais, comme ça, nous rentrons pas parler.
Oui.
Nous prendre un café ensemble.
Oui.
Voilà, c'est tout.
Ah ben non, monsieur... mais si, c'est drôle, moi aussi.
Monsieur, il est kurde, donc on parlait de Turquie, du Kurdistan, etc.
Oui.
Et il me disait, en fait, que les gens... Il y a plein de gens qui viennent pas chercher leurs commandes.
Oui, c'est vrai, il y en a plein qui ne viennent pas chercher.
Donc, il vous donne un pantalon, par exemple, il faut faire un ourlet, une jupe, une veste.
Elle est oubliée, elle ne vient pas chercher.
Bah alors, qu'est-ce qu'on fait? À partir de combien de semaines vous décidez de les revendre ou de les porter vous-même?
Non, je ne vends pas. Même il y en a qui un an, il est là, je ne vends pas.
Un an, et vous le mettez de temps en temps ou pas, s'il y a un beau costume?
Non, je mets côté, il y en a qui viennent un an après aussi, eux, ils viennent.
Est-ce que c'est arrivé qu'il y a des gens qui reviennent 20 ans après, ils avaient des cheveux, ils arrivent, ils sont chauves?
Non,
elle est belle, la vie. Non, est-ce que et c'est plutôt des dames ou des messieurs qui oublient de revenir?
Il y en a tous les deux.
Tous les deux.
Surtout ces messieurs.
Parce que c'est des costumes pas très beaux, alors ils les laissent tomber?
Non, elle est bon costume, tu sais. Il y en a par exemple une vaste manteau cuir, nous changer de bleu. Ça fait plus d'un an, il ne vient pas chercher.
Qu'est-ce qu'on fait avec ce manteau, monsieur? Qu'est-ce qu'on fait?
J'ai gardé, je ne sais pas.
Bon, alors, François, vous allez le laisser combien de temps? C'est le manteau de François?
Non, je vais aller le chercher. Oui, j'arrive.
C'est quelle taille? Je ne sais pas, je n'ai même pas regardé.
C'est un manteau en cuir, quoi? De type Gestapo, élégant? On est sur quel cuir?
Voilà.
C'est cuir, quoi.
Ouais.
Cuir kurde.
Ah non, c'est monsieur qui est kurde. Le manteau est cuir.
On est en train de regarder, là, il est en train de sortir le manteau.
Il vient du cuiristan.
Celui-là, regarde, c'est deux t-shirts. Il est même payé, il ne vient pas chercher.
Il est payé, parce que vous faites payer à l'apport du vêtement et pas quand on vient de retirer.
Normalement, il est payé en avance.
Moi, je fais ça aussi. À la radio, les invités paient avant les compliments.
Le cuir, il est super.
Oui. C'est un très beau cuir, on est sur un cuir quoi, on est sur du souple, on est sur du, on est quoi, on est du pleine peau.
Souple, c'est pas très dur, non, souple.
D'accord. Bon, il faut le dire à Cyril Dion, ça, parce qu'il est furieux. Okay. Est-ce que le cuir, si jamais on le remet dans la nature, peut redevenir l'animal ou pas? Je m'en rends pas compte du tout, non.
Ok, merci. Hein.
Merci, monsieur. Monsieur en a marre de mes conneries. Monsieur en a eu marre.
Il y a une dame qui est rentrée aussi pour prendre le café, et vous, j'ai cru que vous étiez chanteuse, mais en fait, vous êtes comptable.
Je suis pas chanteuse, je suis comptable, ouais.
Est-ce que dans le monde de la comptabilité, est-ce qu'il y a de plus en plus de chants?
C'est-à-dire?
Est-ce que des gens chantent en travaillant dans la comptabilité? Est-ce que...
Waouh! Non, ça je l'ai pas... Non, j'ai pas encore vu ça, non.
Vous connaissez une chanson, madame?
Je chante très mal.
Eh ben, moi j'écoute très bien, alors allons-y.
Alors, qu'est-ce que je chante?
Oui, je sais pas.
Ah, je sais pas du tout.
Un petit moment angoissant.
Mais... Une berceuse? Le matin, ça fait toujours plaisir.
Ah. Alors. Qu'est-ce que je chante?
On y va. On y va tranquille.
Je fais la décoration à la fraîche, bien, on est bien. De fils de toutes les couleurs, il y a des bobines. De
rien ne me vient à l'esprit, hein, de tout de suite. Là.
Dans la voix.
Non.
Une petite berceuse que vous entendiez enfant?
Ah, bah.
Ouais.
Une chanson douce que me chantait ma maman.
Oui.
Cette chanson douce, je vais la chanter pour moi.
Et votre maman qui était Henri Salvador, vous êtes. C'est magnifique. Mais...
Moi aussi, je suis maman, donc...
Ah, vous aussi, quoi. Vous aussi, oui. Vous êtes maman. Bah, écoutez, ouais. Ça doit être très agréable pour votre fille. Elle doit s'endormir tout de suite. On vous embrasse très fort, chère madame.
Merci,
attendez,
beaucoup.
Restez en ligne, vous allez jouer avec François Rollin. Vous allez participer au jeu de François Rollin. Vous restez en ligne? Mettons un jingle, trouvez une musique pour le jeu de François Rollin.
Est-ce qu'on pourrait considérer que la pub sera un grand jingle?
Ah
et on
non,
se retrouve
je ne peux
après.
Pas faire la pub, là.
Non.
Si.
Oh.
Non, on la met à la fin, la pub, comme si on dit que c'est pas dans notre émission, que c'est dans les 30 Glorieuses.
D'accord.
Tiens, pardon
on
les gars.
On est tout, oui, hein, on est
alors on y va, mettez un petit jingle, le jeu de François Rollin. Madame, vous allez jouer avec François Rollin, quel est le jeu aujourd'hui?
Jack peut vous aider, hein, madame. Jack, tu peux aider la dame.
Oh la vache.
Alors,
non, voilà, soyez gentil, ouais, pas de...
Première épreuve.
La vache, comment...
Première épreuve, madame. Regardez bien les trois dominos que voici. Bien, maintenant, lequel parmi ces quatre dominos complète logiquement la série A, B, C ou D? Quelques secondes pour répondre. A, B, C ou D?
C'est pas le jeu de tout le monde.
B.
Très bonne réponse.
C'est
deuxième
vrai,
question.
Oh là là,
attendez, c'est pas fini. Et deuxième question, et c'est une question éliminatoire.
Aïe.
Alors, regardez attentivement, madame, ces cinq triangles de couleurs. Je vous laisse quelques secondes.
Oui.
Voilà, maintenant, lequel de ces deux triangles devrait figurer logiquement en sixième position? Le rouge ou le jaune?
Waouh.
Non, waouh, ça n'est pas une réponse que je peux accepter.
Ni l'un ni l'autre.
Si.
J'ai choisi le rouge.
Eh bien, c'est raté. C'était le jaune. Eh bien, c'est perdu. C'est perdu, vous.
Moi, Léa, vous auriez dit le jaune aussi, vous?
Oui, moi, j'allais dire le jaune.
Moi, je pensais jaune aussi.
Oui.
Ah, d'accord. Bon, ben, j'aime pas le jaune, alors.
Jack, vous trouvez un cadeau avec madame. On va trouver une solution quand même.
Ah oui, il y a des chemisiers. Il y a plein de trucs.
Voilà.
Ici.
Vous le prenez. Faites une note de frais. Prenez un vêtement chez monsieur. Vous me promettez, et vous l'offrez à madame, vous me promettez que vous le faites. Hein, je vous rembourse.
D'accord, je vous promets, il y a des fermetures éclairs, il y a plein de trucs, mais je vais trouver un truc.
Il y a Nouna qui vous le remboursera, mon baba vous le verra. Voilà, merci messieurs, dames, merci. Merci. On arrête l'émission à 58, donc si jamais il y a de la pub, c'est à cause des 30 Glorieuses. Hein. C'est Yacine et Thomas, c'est pas nous. La pub, c'est pas nous. Allez, merci, très très bonne journée, puis Thierry pareil, et puis on vous embrasse, merci.
7h, 9h, plus près de toi.